Les mecs, je pense que vous savez pourquoi on est là ce soir.
Ouais.
On a eu des plaintes concernant la semaine dernière, enfin l'épisode précédent. On a laissé tomber pas mal de gens avec le cri qu'on a fait.
Ouais.
Ils ont l'habitude d'entendre Bouya. Je sais pas pour quelle raison on a changé, mais bon. Au bout d'un moment, faut respecter nos auditeurs.
Ouais,
c'est-à-dire ils s'attendent à entendre quelque chose. Ils vont entendre quoi ils s'attendent. Okay,
mais j'avais fait un post-it là-dessus. Je suis désolé.
On fera en sorte de mieux suivre ce qu'on indique, ok ? Donc, pour cette émission, on reprend tout à zéro, on assure auprès des fans, auprès des auditeurs, on ne dérape pas. C'est
okay,
clair ?
Ok, ça marche.
Okay, voilà,
si tout le monde est d'accord, je pense qu'on peut y aller.
Moi, j'avais déjà dit, mais ok. Oh.
Excelsior !
Ok, donc les mecs, en fait, vous n'écoutez pas ce que je dis, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
C'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 57e numéro de Comics Outcast, l'émission Radio Kawa qui vous parle des comics et de leurs univers toutes les deux semaines. Eric au micro, et je vous respecte hein, parce que moi je fais ce qu'on dit. Et autour de la table du studio de la buanderie, accueillis bien gentiment chez Adrien, mes petits chroniqueurs sont là pour discuter des comics dont on a, qu'on a lu cette semaine.
Qu'on a choisi, oui.
Oula, avec moi il y a Gaylor.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Alors qu'est-ce qu'il y a sur le chevet cette semaine ?
Comment ça ? Qu'est-ce que je lis moi à côté ?
Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?
Ah ok, tu m'as fait peur. je sais pas. Si, je lis un peu de Aquaman.
Aquaman ?
Ouais.
Ok, tu repasses
ouais. Bon, en fait, Ben m'avait donné envie.
Ah voilà.
Le spécial New 52. Et j'ai repris Aquaman, voilà.
D'accord.
Voilà, voilà. Et ça se lit très très bien.
Avec Zeph, avec nous, pardon, on a également Zeph.
Bonsoir.
Bonsoir. Oh, une voix très.
Je sais pas ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que tu lis en ce moment
Je suis content parce que j'ai commandé sur Amazon il y a 12 jours environ Secret Warriors.
J'ai bien commencé précis, 12 jours environ.
Non, parce que j'ai râlé parce que j'ai reçu le tome 2 avant le tome 1 et j'ai attendu 2 semaines d'avoir le tome 1, donc j'étais un peu vénère. Donc je lis Agent of Nothing, c'est un truc sur Nick Fury après le dégagement de Stark du Shield et le Hammer qui arrive et tout, bref ça tue, c'est vraiment très très bien.
On en parlera j'espère dans une prochaine émission.
Bon, ouais.
Et troisième chroniqueur avec nous ce soir c'est Ben.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Eh ben écoute ça va plutôt pas mal.
T'as une lecture en ce moment ?
Oui absolument, j'ai trouvé un bouquin un peu par hasard à la Fnac qui s'appelle New York Comics.
Ouais.
Et qui en fait comme son nom l'indique parle de New York et des comics.
Ah bon ?
En fait ça parle de comment les comics sont nés principalement dans la ville de New York, ce que New York a apporté aux comics et ce que les comics ont apporté à New York. Il y a des belles photos de New York des années 70-80 etc. C'est un très beau livre et je suis en train de le lire et je pense que je le focuserai un jour.
Ben on mettra dans les descriptions de l'épisode de
Absolument.
Cette semaine. On a un programme toujours aussi sympathique pour vous. Cette semaine, clairement, le thème, c'est la folie. Hein. On va commencer avec Archer et Armstrong, puis Spider-Man vs Deadpool, et enfin Badger. Le focus sera consacré à Uncanny X-Force, et c'est Gaylor et Zeph qui vont nous le présenter en duo. Et la dernière partie de l'émission sera dans un hors les bulles consacré à la dernière série du Marvel Cinematic Universe sur Netflix, c'est Luke Cage. Pour nous faire les retours, des commentaires, ce genre de choses, rien de plus simple, contactez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram et pensez aussi à nous donner vos avis sur les sujets abordés sur la page de cet épisode sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art. Est-ce que tout le monde est prêt ?
Oui !
Ouais.
Comics Outcast numéro 57, c'est parti !
Bouya.
Tu triches. T'aurais dû le dire tout à l'heure.
On n'a pas dit à quel moment.
Les revues, qu'est-ce que c'est ? Pour chaque émission, en fait, on choisit trois comics. Nous lisons les trois premiers numéros et on en discute ensemble pour échanger nos avis, pour savoir ce que tout le monde en a pensé. Et vous entendez ces avis pour la première fois autour de ce micro. Le premier titre de cette semaine qu'on va analyser, c'est, c'est Armstrong et Archer. Dans l'autre sens, Archer et Armstrong, excusez-moi, et c'est Gaylor qui ouvre le bal.
Alors, version 2016 de la série.
Oui. Hein ?
Alors vas-y, est-ce que tu veux dire ce qui s'est passé ?
Ok, d'accord. il y a deux versions qui existent. En fait, c'est une série qui a eu plusieurs publications.
Bon, il y a eu plusieurs versions. Mais
et la plus récente, c'est celle de 2016, et c'est celle que Gaylor avait choisie. Malheureusement, dans un excès de zèle, j'ai acheté la version qui est parue qui est paru un petit peu plus tôt, mais qui en fait reprend des histoires plus anciennes. Du coup, je me suis trompé. Et comme on dit dans notre jargon, j'ai fait une Luxbox.
Oh, la honte.
C'est une version de luxe, donc c'est la dernière sortie en fait.
Voilà. Version de luxe. Ah, box.
Pas mal, pas mal.
Alors.
Ah, joli. Hey.
Alors, la version. Pardon. La version 2016 de Arthur Armstrong, donc c'est le troisième titre Valiant qu'on chronique. On avait chroniqué Bloodshot, on avait chroniqué Eternal Warrior, et là on change complètement d'univers et d'ambiance, mais on n'est pas tout à fait éloigné de par exemple Eternal Warrior, parce que Aram Ani Pada, le vrai prénom et nom de famille de Armstrong, est en fait le frère de Gilad Ani Padam, qui est l'Eternal Warriors. Voilà. Donc lui aussi, on commence comme ça, je vous fais une petite présentation du personnage, à 6000 ans. Sauf qu'au lieu de passer 6000 ans dans les enfers ou sur Terre, enfin voilà, à se battre, à faire des arts martiaux et tout, lui a passé en fait 6000 ans à boire, à baiser, à écrire de la poésie, à vivre des aventures, à voilà, faire la fête et tout ça. Donc c'est
il a profité quoi.
Oui voilà, en fait c'est l'hédoniste parfait, et au cours des siècles en fait, il s'est taillé une réputation telle que certains groupes un peu on va dire extrémistes ont commencé à le traquer et à construire une réputation autour de lui. En gros c'est le diable pour ces personnes-là.
D'accord.
Et vu que lui, bon, bah, il a 6000 ans, voilà, cette rumeur a eu le temps de se répandre.
C'est l'excès de péché.
Et du coup, voilà, ces personnes-là ont formé une personne, ont un guerrier qui s'appelle Obadiah Archer. Obadiah Archer qui est formé à plein d'arts martiaux super bien qui font trop mal et qui est formé justement dans le seul but de le tuer. Et le truc, c'est que ces deux personnes donc se rencontrent. Et finalement, elles se rendent compte que c'est bullshit total, et puis elles deviennent potes, et puis ils continuent de vivre des aventures, mais en duo cette fois.
D'accord.
Et donc, c'est la version 2016 en fait prend la suite directe de la version de 2012. Donc, si comme moi vous n'avez pas lu la version d'avant, bah vous allez être un petit peu largué, parce qu'il peut y avoir des anecdotes, des personnages qui sont pas forcément remis en situation directement, mais en fait, en gros, on part du principe que tu les connais.
D'accord.
Un peu comme si tu connaissais Batman ou Captain America, sauf que Arthur Armstrong, personnellement. Voilà.
Un peu plus discret, on va dire.
Ouais, exactement.
Un peu moins grand public.
L'histoire, c'est ces deux personnages, en fait, qu'on a déjà aperçu d'ailleurs dans l'event The Valiant, qu'on avait chroniqué aussi précédemment. Ça commence, en fait, sur un flashback. Armstrong est en 1957. Et il braque avec son pote de l'époque une distillerie ou un truc comme ça.
Un vendeur d'alcool, un Nicolas. Hein.
Voilà. Il braque un Nicolas et Armstrong chope une bouteille de 1907 et il est très content. Ils vont fêter ça avec de l'alcool un peu moins luxueux. Et on revient dans le présent et Armstrong en fait apprend la mort. On est en 2016 donc du coup, et Armstrong apprend la mort de son pote. Et on sent qu'il est vraiment atterré par cette nouvelle et il décide, ah oui, petit truc, j'ai oublié de vous préciser, Armstrong est équipé d'un sac à la Mary Poppins.
Dans lequel il y a toujours tout ce qu'il faut.
Voilà, il peut, en gros Armstrong c'est un peu un mélange entre Lebowski, tu vois, The Big Lebowski et Mary Poppins, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment le mélange parfait, il peut ranger ce qu'il veut dans son sac et il se dit, bon bah allez hop, j'attache une corde là au pied de mon lit, hop, j'ouvre mon sac en grand, je vais plonger dans mon... Parce qu'il a une bibliothèque, il a une cave à vin, il a tout ce qu'il veut dans son...
C'est comme un TARDIS aussi
c'est un peu ça, oui, exactement. Et du coup, voilà, en gros, il disparaît, quoi. Il prévient personne parce qu'il fait toujours comme ça, tu vois. Il a 6000 ans, c'est l'irresponsable le plus total.
Il laisse un petit mot.
Et c'est vrai qu'il laisse un petit mot.
Un petit mot.
Et Archer déboule dans la chambre, il ne le trouve pas, il décide de partir à sa recherche parce que ça fait un petit moment qu'il attend. Mais avant ça, il demande à sa demi-sœur, qui est, alors attendez, je l'ai noté quelque part, sa demi-sœur, voilà, qui
meuble.
Donc qui a la tête d'une ligue de nonnes assassines. The Perpetual Darkness, je sais pas quoi, enfin groupe à la con, quoi. Et elle demande à sa demi-sœur de garder le sac pendant que lui va chercher son pote, sachant que sa demi-sœur est très intéressée par le pouvoir de ce sac. Et elle lui fait promettre de pas se barrer avec le sac une fois que lui sera à l'intérieur, tu vois. Et la demi-sœur dit oui, bien sûr, t'inquiète. Et lui, comme un con, il fonce. Et après s'ensuit une histoire de les trois premiers chapitres se déroulent exclusivement dans ce sac, dans lequel il y a plusieurs niveaux, et à la fin il y a cette espèce de dieu qui est en fait enfermé depuis 3000 ans. Parce que il y a 3000 ans, Armstrong faisait la teuf dans la Rome antique, et à un moment pour faire marrer tout le monde, il a pris un gars, puis il l'a enfermé dans son sac, et après il s'en souvenait plus parce qu'il était complètement bourré, et le mec est resté 3000 ans dans ce sac, quoi. Ah, là. Et en fait, ce comic, c'est ça tout le temps, quoi. C'est d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, c'est vraiment c'est très drôle, c'est loufoque, c'est gentiment loufoque, c'est-à-dire c'est loufoque, mais il y a un petit scénario quand même qui s'installe et qui fait que du coup bah c'est pas blague
juste
sur blague,
une
et
succession
c'est pas
de blagues,
voilà, c'est pas un truc complètement
drôle,
factice
qui,
quoi.
Ouais. D'accord.
Et du coup donc ils descendent tous les deux, c'est la merde au fond du sac, je relis mes notes, blablabla. Bon, je vais pas tout spoiler, hein, voilà, là c'est à peu près, je vous ai fait un gros résumé du premier chapitre, là en ce moment il y en a 5-6 de sortie. Alors moi j'ai trouvé ça pas mal, j'ai du mal à me faire un avis vraiment définitif sur ce titre, je pense qu'il mériterait une seconde relecture. Il y a des trucs marrants. À un moment, les deux Archer Armstrong sont capturés. On leur colle une espèce d'aspirateur sur la gueule qui en fait envoie de l'alcool, en fait toute la réserve d'alcool d'Armstrong, ouais. Et qui les bourre complètement. Et ils arrivent quand même à se parler, à communiquer. Et donc t'as des pages comme ça où ils parlent juste en blablabla. Et puis à côté t'as une case qui traduit. Et puis ils se parlent. En fait ils se comprennent complètement. Tiens bon, il y en a un. Et puis des fois
ils ont passé trop de temps ensemble et du coup voilà.
Voilà ça. Et puis des fois ils traduisent de la merde. Moi il y en a fait. Et puis traduction, oh, voilà, c'est tout, juste ça, voilà.
Ils finissent par chialer.
Voilà. Donc ça parle en tous les sens, c'est marrant. Moi, pourquoi je voulais lire ? Parce qu'en fait, j'ai vu le nom de David Lafuente, que j'adore son dessin, je suis très très fan. Et Lafuente, hey ! Et il a un style un peu cubique, qui me rappelle Romita Junior, mais un peu plus arrondi. J'avais noté Romita Junior pour les enfants sur mes notes, je trouvais ça...
Oh.
Bon, je trouvais que c'était assez imagé comme image. Je trouve qu'il a vraiment un style de ouf, mais au niveau du storytelling, en fait, je le trouve assez confus. Je sais pas pourquoi, des fois il fait des découpages assez bizarres et des fois il s'amuse à faire un dessin, tu vois, on va dire sur un rectangle de 6 cases, et il coupe ce rectangle en 6 petits carrés. Et c'est le même dessin, tu vois, mais ça donne une impression. Je me dis que peut-être qu'il a voulu rendre traduire l'aspect un peu claustrophobique du sac, parce qu'ils sont constamment dedans.
Fermés, ouais.
Mais enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça, des petites tentatives de d'agencement de cases, de succession comme ça.
Ça pour toi, c'est pas passé ça.
Qui passe pas très très bien. Mais en termes de dessin pur, je trouve que c'est vraiment très bien. Les chapitres aussi, je l'ai pas dit, commencent par des petits flashbacks justement qui on part en 1957, puis on va en 1980, en 2000, tout ça, pour en fait nous resituer l'ami qu'il avait avant Archer, qui était un bon ami à lui aussi,
ouais.
Mais qui l'a plus ou moins trahi avec une histoire de meuf au milieu, enfin voilà. Et puis lui, ça fait 6000 ans qu'il fait de la merde, donc il s'en est pas forcément rendu compte. Puis là, dès que ce mec est mort, en fait, il se rend compte que, enfin voilà, qu'il répare un peu les choses et qu'il arrondisse un peu les angles avec son pote du moment, à savoir Archer. Qui traite pas forcément toujours très très bien aussi. Donc c'était plutôt une bonne lecture, même si voilà, il y a ce côté structure un peu bizarre et puis quelques lacunes si t'as pas lu les versions d'avant. Mais sinon ça va. C'est pas le pire truc qu'on ait chroniqué.
D'accord, donc ça reste sympathique.
Oui.
Ben, ton avis ?
Mon avis, c'est un buddy comics. Comme les buddy movies, mais de comics.
Pas complètement.
Voilà, hein.
Ouais.
Du coup, ça fonctionne. Enfin,
buddy BD.
Ouais, buddy BD. Ça fonctionne parce que voilà, il y a des trucs rigolos. Enfin, dans les bons trucs, j'ai trouvé que le duo fonctionnait bien. Il y a une bonne dynamique entre les deux, des dialogues assez rigolos. Le scénar est pas complètement, enfin, est pas spécialement original, quoi. C'est un peu, il y a un ennemi et on y va. Même si le coup du sac est plutôt rigolo. En fait, j'ai bien aimé que le sac, que ce soit pas genre, enfin, parce qu'en fait, c'est un monde vraiment.
Si tu veux dire que c'est accessoire, j'avais déjà pris la blague, mais.
Non, non, non. Non, non, ce que je veux dire, c'est que le monde dans lequel ils sont, donc le monde du sac, en fait, c'est un monde fantasy, enfin, c'est un monde imaginaire, mais c'est bien que ce soit pas genre sur une autre planète ou dans un monde, enfin, c'est quasiment un monde parallèle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien que ce soit pas en fait, on sait même pas pourquoi, en fait, on se pose même pas la question, on se dit, ok, dans le sac, en fait, il est tellement grand qu'il y a des étages, il y a une ville entière, il y a des habitants, il y a des espèces de gobelins, il y a des lézards qui écoutent des iPhones parce que du coup, à un moment, il a dû ranger son iPhone dans son sac et du coup, il est tombé.
Ouais.
Enfin, voilà, il y a plein de créatures un peu loufoques comme ça et c'est plutôt rigolo, donc ça tient bien. J'ai trouvé ça assez drôle. À un moment, t'as des monstres faits d'ordures, donc c'est plutôt rigolo. Mais effectivement, voilà, le scénar m'a pas emmené plus loin que ça. J'ai pas été retenu spécialement par tel ou tel personnage, même si les deux persos principaux sont cool. Au niveau des dessins, par contre,
dis-le.
Non, c'est pas moche. En fait, dire moche.
Dis ce que tu m'as dit avant l'émission.
Je t'ai dit que c'était Humberto Ramos raté.
Voilà,
en
super.
Fait, mais même où Romita Junior raté. En fait, en gros, c'est qu'il y a un style. Il y a un vrai style. Ça, je peux pas lui enlever. Mais par contre. En fait, il apporte rien. Enfin, il est. Enfin, genre, j'ai déjà oublié. En fait, en gros, dans la prochaine review, tu me diras. Oh, en fait, tu te souviens des dessins de Archer? Ah non, fais voir. Ah ouais, ok, je m'en souviens. Là, je m'en souviendrai pas. Et surtout, il y a un réel problème. Enfin, deux réels problèmes. C'est déjà, il sait pas faire les nez, ou alors en tout cas, les nez sont coupés comme des statues. Voilà, c'est
insupportable. Il fait des tout petits nez pointus des fois aussi.
Bah ouais, ou alors plat. Enfin, très bizarre. Et alors, le vrai problème, c'est les articulations des doigts. Donc vous regarderez que ce soit, alors je sais pas comment on appelle les os là où, quand on met un coup de poing là, non phalanges. Au-dessus les os là sur lesquels on compte les mois de, quand on est petit on compte les mois mars avril là-bas, là, ces trucs là, ces os là horrible dans le truc.
Et il fait des petites boules, oui.
Voilà. Mmh. Et les et pareil les phalanges, enfin les ce qu'on
le
fait
truc au milieu, voilà, un des trucs
insupportable. On a l'impression que les gars ils ont la lèpre ou qu'ils ont des pustules, c'est absolument insupportable, c'est dégueulasse. Donc voilà, à part ces deux erreurs impardonnables,
carrément,
le dessin est pas mal. Et le petit truc que je me suis noté sur les dessins, ce qui ça m'a un peu frappé, c'est que Archer ressemble à Tintin. Et Armstrong ressemble à Capitaine Haddock surmusclé, mais en fait c'est assez, je sais pas du tout, je pense pas que ce soit fait exprès, mais en tout cas il y a, moi ça m'a vraiment fait penser à ça quoi.
D'accord. Et ton avis général?
C'est que c'est cool, mais je pense que je lirai pas, ça m'a pas retenu quoi.
Merci. Et enfin Zef, ton avis sur attends, j'arrive pas à le dire dans l'ordre. Archer et Armstrong, excusez-moi.
Et ben moi comme j'ai fait une Lucille voilà.
Et, ah oui c'est vrai.
Enfin parlez-nous de ce que vous avez lu.
C'est marrant du coup parce que moi la série originale, donc j'ai lu les trois premiers, j'ai kiffé de ouf. Parce que les dessins sont 10 fois mieux, ça faut le dire.
C'est un peu plus sévère, un
peu
plus grave.
Et le thème de l'histoire est vraiment plus intéressant. En fait, on suit vraiment la rencontre entre ces deux personnages. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure sur les nonnes ninja des Darkness, machin et tout. En fait, tu les vois dès le début sur la première série. Et elles sont ultra stylées, en fait. Et j'imagine qu'après, tout est développé sur le pourquoi du comment, tout ça. Et effectivement, sur la première série, je pense que c'est intéressant de partir de la première série et c'est ce qui doit manquer pour être intéressé par la suite.
C'est exactement ce que je me disais.
Parce que le personnage de Armstrong est présenté tellement bien dans les trois premières comics de la première série, en fait, que t'as envie de le suivre. Tellement il est marrant, en fait. Il est juste badass et marrant. Et le gamin, Archer, est vraiment, c'est le gars tout naïf qui sait tout faire, en fait. Et il apprend le moindre truc super rapidement. Il est le plus balèze au niveau, art martial. Il sait tout faire. Et même je pense que même la gestion du comics, enfin, la mise en page et la façon de raconter l'histoire est différente, parce que dans la première série, à chaque fois qu'il fait quelque chose, genre dès qu'il utilise un art martial, il explique qu'il y a une petite case qui dit...
Ah, t'as ça aussi, là, ouais.
Ouais, t'as ça aussi. Bah, c'est ultra stylé, en fait.
L'origine de l'art martial.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, moi, avoir lu l'ancienne série, ça m'a vachement lancé. Et j'ai vraiment envie de la lire.
Du coup, tu m'as donné envie, là, ouais.
Que je lirai la suite par... Enfin,
je suis curieux de voir comment on passe de quelque chose qui est relativement sérieux, quand même, hein, dans le...
Sérieux,
la première
mais marrant. Enfin, il y a un second degré vraiment présent, sur, enfin, Armstrong qui se prend les deux carreaux dans les yeux, qui devient aveugle et qui arrête pas de blaguer par la suite dessus. Je trouve ça trop marrant, quoi. Genre, mais c'est sérieux sans vraiment être sérieux, quoi. En plus, le plot de base est quand même un peu vu, mais marrant à suivre.
Deuxième série ce soir, on va parler d'une série de chez qui j'ai déjà oublié. Excuse-moi, Devil's Due Publishing, qui s'appelle Badger.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler,
Ben? En fait, c'est First Publishing, c'est Devil Due First Publishing.
Ah oui, il y avait un slash, je ne savais pas où.
Mais je pense que tu trouveras, si vous faites des recherches, vous trouverez plus à First Publishing qu'à... Enfin, en même temps, Badger, c'est ça. Bon, bref. C'est un perso qui a été créé par Mike Baron, donc qui est le scénariste de ce dont je vais vous parler, qui existe depuis 1983, en fait, qui a d'abord été édité chez Capital Comics. Il a été plusieurs fois, la série a plusieurs fois été annulée, puis reprise, puis annulée, puis reprise, notamment par Dark Horse, Image et même IDW, donc c'est vraiment un truc qui a voyagé d'édition en édition. Et en fait, là, c'est un reboot de l'histoire originale du perso, qui est sensiblement la même que l'Origin Story, mais avec des petites modifications. Et donc dans ce reboot, on nous raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Norbert Sykes, qui quand il est jeune s'engage dans l'armée pour combattre Al-Qaïda, puisque ça a été remis au goût du jour, le perso original c'était Guerre du Vietnam. Il est super efficace dans son boulot, il fait ce qu'on lui dit de faire, il a pas de pote de chambrée, il a un chien de combat qui s'appelle Otis, c'est important parce que ça va être son seul ami et c'est grâce à ce chien qu'on va voir qu'en fait... ce mec a vraiment un réel lien avec les animaux, il aime beaucoup les animaux et en fait c'est ses seuls amis, il les comprend, voilà. En fait il va donc sur le champ de bataille un jour, puisqu'il est à la guerre, et Otis meurt, et à partir de ce moment Norbert va péter un câble, vraiment. Il va défoncer des dizaines de terroristes tout seul. Il se fait capturer par Al-Qaïda et un jour, pendant qu'il est retenu captif, il a une vision de lui au bord d'une rivière qui rencontre un blaireau,
littéralement,
d'où le nom
littéralement.
Badger, voilà, Badger en anglais, qui lui demande est-ce que tu veux être le combattant pour les animaux, est-ce que tu veux combattre pour les animaux pour nous défendre,
est-ce que tu es notre champion.
Exactement, lui dit oui évidemment. Une fois qu'il est revenu à la réalité, il s'échappe en tuant tout le monde, et il devient, mais vraiment tout seul, il tue vraiment tout le monde, il déserte et tout, il pète un câble encore une fois, encore plus. Et c'est alors qu'il devient Badger, qui sera l'une de ses multiples personnalités, puisque c'est ce qui va vraiment caractériser le personnage. Différentes personnalités qu'il va développer à partir de ce point, dont Max, un architecte gay, une petite fille de 5 ans ou Leroy qui est un chien. Donc voilà, ça fait partie de ses différentes personnalités. Il va rentrer aux États-Unis parce qu'il a fait, il a rendu service à la nation. Il est de plus en plus fou, il prend des voix différentes, il se parle tout seul, même quand il y a des gens autour de lui, il fait des actions, après il dit à la personne en face, bah en fait c'est pas moi qui l'ai fait, c'était l'autre gars, enfin voilà, ouais. Complètement désorienté. Enfin lui, pour lui c'est ok, mais il est complètement fêlé. Et un jour, en voulant défendre quelqu'un dans la rue, il se fait arrêter par les flics et il finit en institut psychiatrique. Dans cet institut psychiatrique, il rencontre le Dr Fields qui va devenir sa psychiatre. Et il rencontre surtout, alors je vais dire son vrai nom même s'il y aura un diminutif.
Alors, bonne chance.
Amalgly Smith, Rivithis, bon voilà, c'est un peu un nom chelou, mais il se fait appeler Ham, qui est en fait un sorcier druide du 4e siècle. Je continue à review comme ça, hein, qui est un sorcier druide du 4e siècle qui va l'aider à s'échapper de l'asile en lui disant je peux te donner ce que tu veux. Déjà, est-ce que tu veux un sandwich au jambon? Il lui dit oui, donc ok, je vais t'aider à t'échapper. Bon, bref.
Ça, c'est une tâche facile, ça.
Exactement. Ensemble avec le Dr Fields, donc, et aussi un scientifique spécialiste du clonage, toute cette team, ils s'occupent d'une sorte de ferme. Enfin, c'est un château, mais ça sert de ferme pour des animaux légendaires en fait qui sont clonés, qui sont ramenés à la vie via le clonage.
J'adore comment ta revue parle de. C'est un mec qui est parti à la guerre, ouais, et mais non, donc mais le clonage et des animaux légendaires.
C'est un peu l'escalade du n'importe quoi. des animaux légendaires, donc des licornes, des dodos, tout ce genre de trucs.
Tout va bien, tout va bien.
Et donc le but de Versa, c'est de rééquilibrer les forces de la nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ham, je l'ai dit, c'est un sorcier et c'est un des quatre sorciers qui dirige le monde. Parce qu'il y a quatre sorciers qui dirigent le monde. Et dans ces quatre sorciers, il y a bien sûr Vladimir Poutine.
Bah, ah bah oui.
Hein, voilà. Qui donc Vladimir Poutine qui vient juste de découvrir un mammouth laineux dans les glaces de Russie et qui décide de vendre sa viande aux enchères. Voilà, j'arrête là parce que c'est la plus ou moins la fin du plot. Hein.
C'est la fin du temps.
Adrien
temps
rigole. Voilà, bah, en fait, ça sert de très bonne transition parce qu'Adrien se marre et en fait, j'ai eu ce même rire quand j'ai lu juste le pitch du perso, c'est-à-dire avant même de commencer et de dire tiens, j'ai envie de review ça. J'ai lu le pitch du perso, c'est un mec qui part à la guerre, pète un câble à plusieurs personnalités et il sait parler aux animaux et c'est un justicier. J'ai dit, mais putain, mais je veux vraiment review ça, ça avait l'air d'être dingue, c'est sur les couvertures, il y a marqué il revient, il est encore plus fou qu'avant. J'ai dit, mais putain, c'est encore plus fou. Donc voilà, ça m'a vraiment donné envie. Les couves étaient rigolotes et tout machin. Et en fait, je pensais que ça serait du n'importe quoi, bien écrit, avec un perso, tu vois, un peu à la entre Deadpool et Moon Knight, tu vois, un mec fou, mais vraiment drivé, qui a un code et qui est bien écrit, en fait, tout simplement par un bon scénariste. Et en fait, c'est pas du tout ça. en fait, c'est le perso est pas du tout bien écrit, il est pas écrit du tout, en fait, je trouve. C'est une succession de dialogues nuls et de moments bizarres, un peu, enfin, pas aboutis, en fait.
Cringy.
Ça mène un peu à rien, ouais, effectivement. En fait, c'est du n'importe quoi tout court. Il y a une ambiance un peu tout est permis, genre à chaque fois quand on tourne la page, on se dit putain, mais c'est l'escalade du n'importe quoi. Et ça peut être séduisant, moi ça m'a séduit à la base, mais en fait. Ça tombe un peu.
Dans l'exécution, ça.
Ouais,
ça
tombe,
pas,
c'est un peu tué dans l'œuf, en fait. Il y a des trucs. Ça monte et puis finalement, bah en fait, non, c'est pas si ouf. Le dessin n'était pas du tout là pour sauver les affaires de Norbert, parce qu'en fait, c'est tout à fait crade. En fait, c'est crade. C'est un peu méchant de dire que c'est crade. C'est pas mal dessiné, parce que le gars est ok dans les proportions et dans les visages, c'est ok. Mais par
c'est
contre,
quoi,
non, c'est que le style, en fait, il est pas du tout recherché. En fait, c'est du très simple. Et les persos sont pas jolis.
En gros, c'est la représentation, quoi.
Ouais, mais encore, c'est pas artistique du tout, en fait. C'est vraiment juste de la BD. Pour moi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est pas dessiné. Alors que, effectivement, je ne l'ai pas dit. Mais Jim Fern, qui est au dessin, et aussi Paul Mann, s'ils sont deux, en fait, ils se succèdent. Ils ont bossé chez DC, ils ont bossé pour Punisher, ce genre de trucs.
Sans vouloir paraître pompeux, Ben est un gros. Nazi du dessin, on est d'accord?
Si tu veux, en fait,
même pas du dessin, de l'illustration en général. C'est-à-dire que toi, t'as vraiment des goûts très très.
C'est quand même dur avec lui parce que moi, j'aime bien quand Nekoto parle justement des dessins parce que j'arrive à comprendre ce qu'il dit et là où il veut en venir lorsqu'il dit que c'est pas bien en fait. Alors, je trouve justement, il est pas nazi, mais il est vraiment très précis et parce
pointilleux.
Que son taf
en
fait.
C'est gentil. Je me dis que c'est tellement, il y a tellement de dessinateurs dans les comics, c'est tellement de styles différents que ça me dérange pas qu'un mec soit pas un ouf. Enfin, tu vois, moi pour moi le dieu c'est Mignola, mais c'est pas parce qu'un gars a pas son talent que je vais dire ah il est pourri. Ouais. C'est juste que je me dis, quel que soit le talent du gars ou sa démarche, tant qu'elle est justifiée par quelque chose, c'est bien. Là, j'ai rien trouvé. Je dis pas que c'est pas le cas, mais moi j'ai rien trouvé qui me dit ok, ce style de dessin est judicieux parce que machin. Tu vois, on a parlé de plein de comics où le dessin était crade mais ça servait le scénario, par exemple quand Moon Knight, tu vois, c'était dessiné au crayon un peu charbon et en fait ça servait vachement le scénario, donc là c'était intéressant. Là je me dis en fait le dessin ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait été bien que ce soit quelqu'un qui sache dessiner, mais en fait voilà, j'ai pas vu de réel intérêt au dessin. La couleur n'a pas non plus sauvé le truc, parce qu'en fait c'est juste de vulgaires aplats. Il y a pas de, j'ai pas vu de recherche. Enfin, tu vois, on va parler de quelque chose comme Uncanny X-Force, où en fait c'est la couleur est dingue. Là rien du tout, quoi. Donc non, vraiment pas. Donc ouais, non, dis-moi.
J'ai une question par rapport à ça. Dis-moi. Est-ce que comme, enfin, tu parles des aplats de couleurs, est-ce que comme moi t'as pensé que ça faisait super daté en fait? Ça faisait pas un truc de 2016.
Oui, justement, j'allais conclure par ça en disant que je vais finir par une note quand même positive, parce que j'ai pas apprécié ce comics. Je suis assez déçu, parce que je m'attendais vraiment à un héros fou et à me dire, ah putain, what the fuck et tout. En fait, non. Mais la note positive, c'est que en faisant mes recherches, donc pour cette émission, j'ai vu des planches de la série originale, donc des années 80. Et je trouve que ce soit par le dessin ou par la composition des planches ou quelques bulles que j'ai pu lire, que ça a l'air de meilleure qualité. Et je trouve que un perso fou comme ça, complètement trash et un peu dégueulasse, s'ancre beaucoup mieux dans les années 80, parce que c'était un peu l'époque où on était un peu YOLO. Et du coup, je vais vraiment regarder si c'est bien ou pas, je vous le dirai, parce que je pense que c'est le reboot là qui est raté par le scénar et aussi par les dessins, parce que le pitch du perso est toujours cool en fait. Donc d'accord. Voilà, j'espère que l'original est mieux.
Zef, est-ce que toi aussi t'as eu le même ressenti par rapport au truc? Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as rien compris? Est-ce que t'as...
Alors, j'ai rien pigé du tout au comics. En fait, ça m'a... Enfin, comme tu résumes très bien le truc, donc je vais juste te résumer toi en disant, c'est une succession de scènes et de dialogues qui ont vraiment peu de cohérence ensemble. C'est dur. Et au niveau dessin, je te rejoins complètement. Et j'ai même, ça fait BD franco-belge moche.
Ouais.
Et
vraiment.
C'est dur à dire. Déjà, quand je traite un truc de BD franco-belge, c'est une insulte pour moi.
Donc toi, t'aimes pas.
Ouais, mais j'aime pas du tout. Ouais. Et c'est dommage, parce que, enfin, il y avait effectivement le plot de base est quand même sympa. Et je pense que s'ils avaient mieux relié les scènes qu'ils essayent de mettre ensemble sur un plot réel, ça aurait pu faire un truc complètement barge et qui part en couille, mais un truc à la japonais.
Exactement.
En fait, ça aurait pu, être vraiment très bien, mais je suis pas vraiment accroché. Non.
Gaylor, pour finir sur cette revue là,
je vais pas sauver le titre, hein. C'est pas vraiment Ben a très bien résumé au niveau du scénario, du dessin. Moi je vais juste rajouter un petit truc au niveau du vraiment l'entrée en matière dans ce comic. J'ai trouvé le premier chapitre plutôt réussi. Je trouvais même assez fou, parce que en fait il allait à 1000 à l'heure, tout allait très très vite. On était dans une bande dessinée où habituellement d'une case à l'autre, bah, tu vois, l'action avance un petit peu, je sais pas, un mec fait trois pas ou un mec répond à un autre, et là d'une case à l'autre c'était une situation complètement différente à chaque fois, et ça me faisait penser un petit peu à Rachel Rising, ou je sais pas si vous connaissez cette BD Lapino et les carottes de Patagonie.
Ouais.
Voilà, bah ça me fait penser un peu à ça, en mode écriture automatique. Brièvement, l'histoire de Lapino, enfin sans parler de l'histoire, mais c'est un mec qui sait pas dessiner, mais qui a envie d'écrire une histoire, et qui son exercice c'est, je vais écrire l'histoire de ce lapin, et il va aller jusqu'en Patagonie, et puis je vais mettre des trucs au milieu, des opposants, des mecs qui vont l'aider, tout ça. Mais il y a aucune structure, il y a aucun plan, il y a aucun
y a
truc
pas une véritable intrigue.
Voilà, c'est d'une case à l'autre, tu penses pas Adrien me fait non. Moi j'avais l'impression que c'était un peu ça. Bon bref. Et enfin, moi j'avais lu des trucs où le mec, enfin voilà, bon bref, des critiques qui évaluaient le truc un peu comme ça. Pour revenir à Badger, voilà, il y avait ce côté un peu écriture automatique qui me plaisait beaucoup, où ça allait très très vite. Bon, c'est très moche, mais le premier chapitre m'avait bien plu. Et le souci, c'est après, c'est que justement, ça se met à se focaliser sur cette histoire de druide, de quatre sorciers, de Vladimir Poutine, et ça devient
marrant.
Ça devient drôle comme un bon nanar en fait. Et même si ça tue complètement le rythme, je trouve, qu'il y avait dans le premier chapitre, et moi j'aurais bien aimé lire un truc comme ça où le mec, bah t'es d'une case à l'autre, d'un coup il se met à tabasser des mecs, d'un coup il se fait capturer, d'un coup il sort, d'un coup. C'est complètement fou, et tu dis, mais jusqu'où ça va aller, quoi? Jusqu'où va aller la folie? Et c'est dommage, parce que même justement, au moment où justement il y a du scénario, bah Badger en fait, ça devient un sous-fifre en fait de ce druide, et enfin c'est. Le personnage perd complètement l'intérêt, et c'est dommage.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce manga de Go, je crois.
Ouais, je pensais exactement
Ikaru
ça.
Ouais. No Go.
Ouais, ouais.
Voilà,
ouais.
Avec justement des grands dirigeants morts
non,
ou pas.
C'est pas ça.
Non,
c'est pas ça. Mais c'est effectivement, il joue sur un porte-avions et
voilà.
Il joue
et t'as tous les chefs d'État donc morts ou pas.
Il joue Mahjong d'ailleurs.
C'est Mahjong, voilà. Merci. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait intervenir Poutine là-dedans? Mais c'est vrai que j'ai complètement lâché. Je me suis dit, non, je pense que j'ai dû faire une Xbox au milieu du truc, mais en réalité c'est juste que la qualité d'écriture n'était pas au rendez-vous. Troisième revue de cette émission, c'est Zev qui va nous parler ce soir de Spider-Man versus Deadpool.
Alors, c'est versus vraiment?
C'est pas versus.
Non, c'est pas un versus, mais c'est noté comme versus en fait.
Ok.
On reste dans la tradition où bah, les gens font toujours la même chose, donc Zev va encore parler de Deadpool. non, je rigole.
Non, tu rigoles pas en fait. Tu vas en parler de Deadpool.
Ah non, je l'ai dit, c'est trop tard. Sérieux.
C'est ouais, trop tard. C'est dans, gravé dans la roche. Vas-y, est-ce que tu peux nous préparer cette.
Préparer. Je peux la préparer, mais je peux
présenter.
La présenter.
Oh là là, j'ai deux cafés dans le sang.
je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Donc, Spider-Man vs Deadpool, donc dans 2016, au titre, on retrouve donc Joe Kelly, qui a bossé en l'occurrence sur Uncanny X-Men, Daredevil, il a fait la JLA aussi. Au dessin, on retrouve Ed McGuinness, qui a fait du Deadpool, pour le citer, du Superman. Là, en ce moment, il est sur du Nova, je crois, chez Marvel. C'est une série qui est ongoing, donc qui continue. On en est à 9 ou 10 issues de mémoire. Alors, pour oui.
Excuse-moi, je reviens juste sur le ongoing parce que on a déjà review un Deadpool vs Hawkeye qui était pour le coup une série en 4 épisodes.
En 4 épisodes, voilà, mais qui est même pas terminé, je crois, de mémoire. Ça n'avait pas fait.
Ah bon?
C'est pas.
Hein, oui, il me semblait que les Versus c'était des mini-séries en fait. Et justement, bah, le principe de cette
série. C'est pour ça que j'insiste là-dessus pour montrer que.
Là, on est à 9 issues. Il y a déjà un peu.
Non, mais là, justement, c'est pas un Versus.
Si, c'est un Spider-Man vs Deadpool.
C'est pas crédité comme ça, mais c'est pas grave.
Mais c'est, pas, les... c'est noté
et
comme
le titre,
ça.
Le titre, c'est quoi alors?
Bah, c'est Spider-Man Deadpool.
Spider-Man,
c'est là,
Spider-Man.
Ah, c'est pour ça que je demandais
VS, VS Deadpool.
Ok, ah non, mais bon. Bah, je crois pas, mais ok.
Continue.
Ok, on regardera si vous voulez. Ouais. Je suis quasi sûr de ça. Donc, je disais, pour reprendre, en fait, elle vient. C'est une série qui vient à la suite directe de Uncanny Avenger. Donc la nouvelle série qui est en cours de 2016, puisque dans cette série, donc j'ai parlé un peu de ça, Deadpool en fait reçoit sa carte de membre officielle de la main de Steve Rogers et il devient officiellement un Avenger à plein temps.
Ouais.
Là le monde tremble déjà, ça commence assez mal. Dans cette team, on retrouve des mutants et des comme Rogue ou Quicksilver ou Spider-Man en l'occurrence à ce moment-là, et on retrouve aussi des Inhumans comme Synapse par exemple. Et donc le but de cette team à la base, The Avengers, c'est de montrer que les Inhumains et les mutants peuvent bosser ensemble. D'accord. Donc là tout va bien, ils font une première émission ensemble. Ils pètent la gueule à je sais plus qui d'ailleurs. Grâce à Deadpool, tout est vaincu. C'est ça qui est marrant d'ailleurs. Et Spider-Man pète un câble en disant Deadpool est fou, il n'a aucune place dans cette équipe, il devrait se barrer. Et je cite, il dit à Steve Rogers, Deadpool se barre ou c'est moi qui me barre. Ce à quoi Steve Rogers répond, je me porte garant de Deadpool, fais ce que t'as à faire. Et Spider-Man se barre.
Et donc la porte est là.
Juste après en fait, ils ont lancé la série donc Deadpool versus Spider-Man versus Deadpool, où justement ils vont essayer de travailler ensemble. Donc dès le début de la série, en fait, premier épisode, on les retrouve aux prises avec Dormammu, donc qui est un dieu ancien assez balèze, enfin un démon plutôt. Ils sont sauvés, enfin ils se battent, ils sont aux prises en piège, ils vont pour avoir l'impression qu'ils vont crever, même bref, ils se sauvent grâce à Deadpool, ils arrivent à sauver la mise, machin et tout. On se rend compte après, juste après, que Deadpool avait monté en fait un plan avec, c'est même pas Dormammu, mais c'est un espèce de lutin qui est dans un corps géant pour pouvoir faire en sorte que Spider-Man l'apprécie bien, parce que Deadpool n'a qu'une envie finalement, c'est que Spider-Man l'apprécie, parce que pour lui en fait, enfin c'est son héros en fait, Spider-Man c'est son héros, c'est son un peu son modèle, et il a envie juste d'avoir un petit peu de respect et d'être pote avec Spider-Man, de pouvoir sortir boire des bières avec lui.
C'est une raison honorable en fait.
C'est
ouais, à la base,
à la base, enfin dans l'esprit Deadpool en fait, c'est toujours ça. Donc ils vont teamer ensemble malgré Spider-Man pendant tout le premier épisode, et à la fin du premier épisode en fait Deadpool reçoit un contrat, parce qu'il faut pas oublier que ça reste un mercenaire, où il reçoit, je crois que c'est 100 millions de crédits de dollars ou 100 millions de dollars pour tuer Peter Parker.
D'accord.
Qui lui ne connaît pas évidemment la véritable identité, sachant qu'à ce moment-là Peter Parker est un peu un Stark en puissance, puisqu'il a la plus grande société technologique au monde et qui fait des millions de dollars tous les mois. Donc voilà. Et la suite, je vais pas raconter la suite des deux autres épisodes parce que ça part un peu dans le même délire. C'est une série que je kiffe de ouf, vraiment, parce que ça reste Deadpool. C'est une série qui traite bien le personnage. Non, mais c'est rare, encore une fois. Ouais. Le personnage est bien traité, il est débile, mais pas. Il est con, mais pas débile dans le sens on prend pas les lecteurs pour des débiles.
Il fait le foufou, mais.
Voilà, il est foufou, il est intéressant. Il a un vrai second degré. Sur lui-même, et en plus sur avec les blagues de Spider-Man à côté, genre on a un duo qui n'arrête juste jamais de parler. Il y a des blagues à profusion, ça s'arrête bien, et surtout bien fait. Et on arrive en fait à avoir une espèce de lien entre les deux personnages qui se crée au fur et à mesure, et plus on va avancer dans la série, plus on va avoir même des scènes complètement émouvantes et intéressantes entre les deux personnages qui font qu'en fait les deux grandissent, en fait ils évoluent l'un avec l'autre, et ça c'est super intéressant. En plus, tout le passif récent entre guillemets de Deadpool n'est pas oublié, c'est-à-dire le fait qu'il soit marié, le fait qu'il ait une enfant, le fait qu'il ait vécu des moments assez durs dernièrement, tout ça. En fait, tout ça est mis en avant avec Spider-Man en lice, et ça rend pour moi la série vraiment très bonne. Au niveau du dessin, il y a rien à dire, c'est dynamique, c'est beau, c'est bien colorisé. Enfin, les deux, enfin en même temps, on retrouve au dessin un mec qui a dessiné Deadpool depuis longtemps. Donc voilà, c'est classe, c'est une série que je conseille très largement.
Ben, est-ce que toi aussi t'as été séduit? Alors déjà, est-ce que tu pars du même passif que
pas du
que
tout.
Zeph avec Deadpool et
pas du tout. Ça fait très très longtemps que j'avais pas lu un Deadpool et un Spider-Man, et encore moins les deux en même temps. Du coup, enfin, je connais les persos basiquement, je connais leur histoire, mais j'ai tout ce qu'il expliquait, j'étais pas au courant. Mais ça m'a pas empêché de trouver ça hyper rafraîchissant. Déjà, avant même d'ouvrir le comics, au-delà du fait que je connais les héros, pour moi c'est les deux blagueurs de Marvel, en fait. Enfin, Deadpool beaucoup plus, mais genre Spider-Man il a toujours une petite vanne et tout quand il tape les ennemis, donc je me dis putain c'est cool, j'espère
ça va pas se phagocyter, c'est-à-dire
ouais,
que
voilà,
ça va
j'espère qu'ils vont pas se gêner ou que ça va pas avoir, voilà, exactement,
devenir chiant au final,
et en fait c'est hyper cool parce que effectivement le scénario est pas très compliqué, en fait c'est juste c'est même très simple, et c'est plutôt une bonne chose. Mm-hmm. En fait c'est juste comme Zeph l'a dit, c'est Deadpool qui veut que Spider-Man l'apprécie, donc je trouve ça assez touchant et plutôt cool. Et enfin, au-delà de ça, c'est au-delà du fait que il veut que Spider-Man l'apprécie, en fait il veut lui-même être quelqu'un de meilleur. Il veut qu'on l'apprécie pour le bien qu'il fait, même s'il a pas toujours la bonne façon de faire. Et donc pour lui, vu que son modèle, ou en tout cas la personne qu'il admire directement, c'est Spider-Man, il se dit, si la personne que j'admire est de mon côté, c'est que je vais pouvoir tout gagner, exactement. Donc il y a ce fond qui est plutôt sympathique, l'action toujours nickel, au rendez-vous, les deux acrobates complètement dingues et tout, même s'il y en a un qui va plutôt mettre une patate et l'autre qui va essayer de shooter au gun, mais peut-être qu'il a des petites balles en plastique, donc ça va. Toujours comme Zeph l'a dit, toujours des vannes hyper bien écrites, Deadpool qui a toujours le bon mot, Spider-Man qui a l'air méga saoulé mais qui quand même arrive à faire une vanne de temps en temps. Il y a d'autres calques dont je parle pas parce que c'est cool de les découvrir, qui sont beaucoup plus profonds que ça, mais donc c'est assez cool. Donc voilà, un bon duo, c'est servi par un dessin vraiment impeccable, enfin c'est hyper beau, le trait est toujours parfait, enfin je veux dire tu me connais, hein, là, ne serait-ce que d'avoir les mêmes proportions d'une case à l'autre, ils ont des masques et on voit quand même les expressions, enfin c'est des petits trucs, mais quand tu te tapes des comics, enfin tu te tapes 3 issues, donc c'est par plaisir, hein, mais je veux dire au bout d'un moment ça fait vraiment plaisir. Tu t'oublies les dessins et au bout d'un moment tu fais attends, je reviens vite fait, ah putain c'était vraiment
tu
cool,
vois que, ouais,
t'as des pleines pages sur
des
monstres et tout, voilà c'est vraiment cool, et la couleur est vraiment très très belle, c'est vraiment très propre, c'est bien ajusté et tout, donc voilà c'est rafraîchissant, plaisant, c'est bien dessiné, donc très honnêtement je sais pas si je vais continuer parce que j'ai d'autres choses sur le feu, mais ça sera, enfin si j'ai le temps ça sera avec plaisir,
un bon petit goûter,
exactement.
Et enfin Gaylor,
et en plus les couvertures et les intérieurs sont identiques.
Oui, voilà, oui. Déjà, en fait, ma review, ça aurait juste dû être ça. En voilà.
Ce qui fait gagner déjà 2000 points.
Exactement. Exactement.
Moi, je vais conclure cette review sur Spider-Man / Deadpool en disant que j'étais très content. Je remets une petite couche. en disant que j'étais content de lire ce titre parce que j'étais content en fait de retrouver ce duo de Joe Kelly et de McGuinness, parce que c'est eux qui avaient. C'est pas eux qui ont créé Deadpool. C'est Rob Liefeld qui l'a créé il y a longtemps, mais il en avait fait un mercenaire à l'époque de Cable, tout ça. Et c'est vraiment ces deux personnages qui ont créé Deadpool tel qu'on le connaît maintenant, le gros déconneur mercenaire qui est toujours dans un univers super délirant avec des personnages hauts en couleur. Et Joe Kelly, on l'avait dit, ouais, il a bossé sur Spider-Man. Et McGuinness, alors McGuinness, moi, Ed McGuinness, je suis complètement fan de ce mec-là. Il a bossé sur, je vous conseille aussi le Hulk qu'il a dessiné, Hulk, je crois que c'est la V4, c'est le Hulk rouge. C'est là où il a été introduit juste après Civil War. Et...
Ouais, il n'a pas fait un World War Hulk ou un truc comme ça aussi?
Justement, après, oui, ça enchaîne sur World War Hulk. Ouais. Il a dessiné quelques chapitres dedans. Ouais. Et en gros, ouais, ce mec-là, c'est monsieur double page. Quoi. Il fait des double pages magnifiques. Il dessine des monstres. Mais enfin, les proportions, les cases, enfin, il a une compo de ouf. Et ouais, les cases même se chevauchent. J'avais l'impression en fait, de lire un truc en 3D par moment parce que les persos se superposent les uns aux autres d'une case à l'autre. Mais d'une, ça nuit pas du tout les lectures en fait. De deux, c'est super amusant comme le disait Ben. Et bah 2-3, c'est vert techniquement, c'est ouf quoi. C'est et puis c'est dynamique, c'est amusant à parcourir. Moi j'étais un peu moins emballé par le script. Je trouvais qu'on était le cul entre deux chaises, entre le côté voilà, on prend Spider-Man version Parker Industries, donc le nouveau Spider-Man que peut-être tout le monde ne connaît pas forcément, donc un personnage encore plus sérieux qui fait un peu moins de blagues maintenant, et voilà, on essaye de retranscrire cet univers, et le côté Deadpool YOLO. Voilà, je tire des coups de flingue sur tout ce qui bouge, tout ça, et voilà, c'est je trouvais que les deux se mariaient pas toujours très très bien, mais comme le disait Zef, il y a ce côté attendrissant à la fin de chaque chapitre où tu vois que Deadpool finalement voilà, on comprend pourquoi il colle au basque de Parker et de Spider-Man comme ça. C'est vraiment, il y a ce plan en fait, hein, on le voit après à la fin de chaque chapitre où il est en train de dire enfin voilà, il attendrit Spider-Man, mais on sent qu'il a autre chose en tête, et rien que pour ça j'ai envie de continuer à lire.
D'accord, je voulais juste préciser que ça venait de sortir en relié en septembre, du coup vous pouvez lire,
oui, je pense que il y a un TPB qui est sorti,
voilà, je crois qu'il y en a 6 ou 7 dedans, et vous faire plaisir, je crois qu'il y a même un numéro 0
Numéro 0 de ça ?
Oui, c'est ça.
Ah, ça, je le connais pas.
Je pense que c'est inclus dans le truc, mais bon, c'est un petit.
Ou alors,
c'est
parce qu'il y avait un numéro 0 sur Uncanny Avenger où t'avais justement Deadpool qui recevait sa carte. D'accord. Donc là, c'est ce qui était assez marrant. Mais
d'accord.
Merci pour ces revues à vous trois. Vous retrouvez les informations sur le site de Rodikawa, sur la page de l'émission. On se retrouve juste après cette pause pour parler de Uncanny X-Force et de Luke Cage. À tout de suite.
Ça te plaît ?
Qu'est-ce qu'elle est bonne ?
Ouais, c'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer.
Dis-moi chérie, t'es bien vierge ?
Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité ?
Papa, comment on fait les bébés, eux ?
Vous n'osez pas demander à votre maman ?
Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes.
Une fois par mois, entre adultes consentants...
Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe.
Minuit 69 ?
Ouais, c'est complètement addictif.
Bouya.
De retour dans la deuxième partie de ce 57e épisode de Comics Outcast. Je vais donner la parole à Gaylor et Zef qui vont nous parler d'une série d'un auteur dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, à chaque fois que je dis ça, on sait de qui on va parler.
Bah, Jeff Lemire, bien sûr.
Et non, Rick Remender. Non, ça faisait longtemps, putain, lui, ça faisait longtemps.
On n'avait pas préparé ça.
Et donc, là, du coup, c'est la séquence focus. On va parler de quelque chose qui a touché particulièrement un ou plusieurs chroniqueurs de l'émission. Et en l'occurrence, donc, c'est cette série-là, Uncanny X-Force. Et du coup, je vais vous laisser.
Bon, on va laisser Zeph commencer.
Ouais. Et c'est j'attends qu'Eric se taise pour
commencer. Oh là là, j'ai envie de faire des introductions. Allez,
c'est plus une intro, mais bon, c'est. donc Uncanny X-Force par Remender. Donc pour la petite histoire, c'est Gaylord qui me l'a présenté cette série à la base, il y a quelques temps, et qui m'a dit tu dois lire ça, c'est vraiment trop bien. Je suis ok, je suis allé dans ma boutique de comics de l'époque, j'ai pris les deux premiers tomes d'un coup et puis j'ai fait ok. Donc Remender, on le présente plus. Sam Humphrey, donc co-dessin, qui est une vraie tuerie. Je le dis tout de suite, le dessin est de bout en bout une vraie tuerie. Oui,
c'est le dessinateur de la deuxième version de Marvel Now, ça, Sam Humphrey.
C'est pas le premier.
Non, le premier c'est Jérôme Peña.
Autant pour moi, j'ai mal fait mon boulot.
Pas de soucis.
Donc, je vais faire un petit focus sur l'histoire et toi tu reprendras.
Je reprendrai les dessinateurs et tout. Et voilà.
Donc, on reprend en fait donc l'histoire. Uncanny X-Force. Grosso modo, c'est l'histoire de Wolverine qui se dit que il faut toujours un mal nécessaire et des hommes pour faire le sale boulot pour protéger le monde malgré lui. Et jusque là, c'est complètement nouveau même. Et donc Wolverine reprend un peu la X-Force et s'entoure d'une team assez badass pour faire quelque chose de vraiment pas bien. Il va prendre Psylocke, il va prendre Archangel, il va prendre Phantom X et il va prendre forcément Deadpool, voilà pour la petite histoire.
Ouais.
Et en fait il va réunir cette équipe et dire ok voilà, on a un seul but aujourd'hui. Apocalypse s'est réincarné dans le corps d'un enfant de 12 ans, c'est comme ça que ça commence en tout cas, et il dit il faut le tuer avant qu'il puisse devenir le futur Apocalypse, avant qu'il puisse foutre la merde encore une fois. Faut aller,
comment on tue un ado ?
Faut aller tuer ça et puis faut aller tuer le bébé dans l'œuf, grosso modo. Oui.
C'est pas exactement dans cet ordre-là. Enfin, tu l'as bien résumé, mais le truc, c'est que Archangel leur dit Apocalypse a ressuscité, faut qu'on aille le tuer. Et toi, en tant que lecteur, tu vois Apocalypse dans sa base, tu fais oh putain, mais c'est un gosse de 12 ans.
Ouais,
mais qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se rencontrer ? Et c'est ça, c'est à la fin du premier chapitre.
Et donc, du coup, l'enfant est pris par le clan Akaba, qui l'endoctrine pour devenir le nouvel Apocalypse avec les quatre cavaliers qu'il protège déjà, et ainsi de suite. Et donc la team va aller s'introduire dans cette base interstellaire, je ne sais même plus où elle est placée.
Elle est basée sur la Lune.
Ouais, voilà. Et pour avec combattre les quatre premiers cavaliers et arriver devant l'enfant et voir ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est une série qui est complètement adulte, genre de bout en bout, parce qu'elle traite des persos de façon profonde. Genre il y a des vraies pensées en fait au niveau des persos, dans le sens où chaque action qu'ils réalisent est réfléchie et va avoir des conséquences. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur un truc où trois pages plus loin, on s'en fout si le gars a tué un ennemi au hasard. Non, là vraiment, mais sur les il y a combien de TPB, il y a 5 ou 6 je crois, il y a
35 chapitres, donc ça doit faire 7-8.
Ouais. Voilà, ça, de bout en bout en fait, chaque action qui va être réalisée dans les premiers épisodes peut avoir une répercussion qui va être sur la fin, ce qui m'a complètement fait péter des câbles par moment. Par ailleurs, voilà, les tous les personnages, Psylocke, Archangel, les interactions entre chaque personnage sont ultra intéressantes, ultra profondes. On va beaucoup travailler aussi sur la romance qu'il y a eu entre Archangel et Psylocke, savoir comment elle a évolué, comment ils évoluent chacun de leur côté avec leurs problèmes affectifs aujourd'hui et ce que ça leur apporte comme noirceur en termes d'être humain. Et Deadpool est ultra bien traité en tant que personnage, parce qu'il est loin d'être idiot dans la série, il est même presque intelligent, parce qu'il arrive à balancer des plans, il arrive à faire des actions super intéressantes même au nom de la team, ce qui en fait en fait un personnage pour une fois je veux dire réfléchi dans une optique de groupe. Il voilà, va pas être juste un électron libre, il va aussi être là-dedans réfléchi par tout le groupe en lui-même, avec des passages complètement fous en termes de combat.
Il n'a pas qu'une seule dimension, quoi.
Non, clairement pas.
C'est pas que le clown qu'il est habituellement, quoi.
Ouais, clairement. Après, on part sur les autres TPB, sur les autres arcs, on part sur des trucs qui sont complètement fous avec Captain Britain qui arrive à capturer Phantom X pour X ou Y raison, je vais pas tout dévoiler tout de suite.
C'est rigolo que tu dises ça.
C'est juste rigolo qu'ils disent Phantom X. C'est peut-être
oui,
le
voilà.
Pire nom
en fait,
super-héros.
Je suis désolé, mais je vais te demander est-ce que tu peux présenter très rapidement
Phantom X, c'est un français en fait. C'est un. Alors, je vais pas dire connerie, mais je crois que c'est un super-héros qui a fait partie de la Weapon X, qui a été créé par l'arme X en fait, qui est un personnage qui est psy, c'est-à-dire, enfin de type psy. C'est pas un Pokémon. Oui. Non, mais en fait, je le relie en fait à Psylocke.
Très
en
fort
ça.
Contre les autres X. Semaine combat d'ailleurs.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup en fait il a enfin en plus d'être très très bon guerrier, c'est un français de mémoire
qui s'appelle Jean-Philippe,
c'est un français, Jean-Philippe, ouais.
En plus d'un très bon guerrier qui flingue très bien par ailleurs, il a une très bonne capacité de flingue. Voilà, il a aussi ce côté psy qui le rend ultra balèze. Et
tu veux que je rajoute un truc sur ce perso?
Vas-y.
Il a sa caractéristique principale, c'est un des persos, alors faut le préciser, il a été créé pendant les New X-Men de Morrison, donc c'est un de ces mutants complètement barrés. Et effectivement, en fait, tout son système nerveux n'est pas dans son corps. Il est parti extérieur de son corps.
Il craint pas la douleur.
Et ça fait un vaisseau, en fait.
C'est Eva.
Eva, ouais. Voilà.
Et j'ai même lu qu'il avait trois cerveaux.
En fait, oui, c'est là où j'allais en venir derrière. C'est qu'effectivement, il a plus que trois cerveaux. Il a aussi trois cœurs. Mais en fait, parce qu'il a trois entités en lui, sans vraiment tout dévoiler. Il a trois entités qui font que parfois, il y en a une qui est plus réfléchie que l'autre ou qui va prendre une décision plus intéressante que l'autre. Il arrive à se...
Et il a un masque qui empêche, comme Magneto, qu'on lise ses pensées.
Voilà. D'accord.
Enfin, ouais. Qu'on a juste...
Donc en fait, juste à part le nom qui est un peu ridicule, effectivement, le perso en lui-même est vraiment badass, je trouve.
D'accord.
Il est cool.
Et il a surtout, toute une histoire intéressante dans X-Force, quoi.
Je vous laisse continuer, pardon. C'était ma petite question.
Non, mais c'est une très bonne question.
J'enchaîne. Juste, okay. Qu'est-ce que je pourrais dire après ça? Alors, tu avais dit que c'est Wolverine qui avait créé X-Force.
Non, j'ai pas dit ça.
C'est Wolverine qui a repris X-Force.
Oui, c'est ça.
Et que c'est Cyclope qui avait créé X-Force. À la base, X-Force, c'était un titre, il faut le dire, nul à chier. Avant que ça devienne Uncanny X-Force. C'était un titre où, vous vous souvenez, on avait chroniqué par exemple Mighty Avengers où le gimmick c'était que des personnages black.
Oui, oui.
Ou un des titres X-Men où voilà, c'était que des meufs. Et là, le truc c'était que des persos avec des objets coupants, on va dire. Tu vois. C'était Wolverine, c'était X-23, son clone. Voilà. Il y avait Archangel parce qu'il a ses ailes avec des lames.
Du métal.
Ça,
voilà.
Il y en avait un, je sais plus comment il s'appelle, merde, je cherche son nom depuis tout à l'heure, un indien avec deux couteaux dans les mains et qui.
Couteau.
Non.
Nike quelque chose, non, c'est pas ça.
Je sais plus. Et enfin bref, c'était un titre très très racoleur, très très violent, exagérément violent, gore. Et Remender en a fait une, on va dire, une fresque qui s'étale sur 35 chapitres, qui. comment dire, un peu à la manière de Fira Jane qui traîne toujours du même thème avec le même personnage récurrent qui s'en prend toujours plein la gueule. Là, on est toujours autour d'Apocalypse. Qui revient, qui repart, qui prend différentes formes en 35 chapitres. D'ailleurs, l'histoire continue après dans Uncanny Avengers pendant la période Marvel Now.
Complètement génial.
Et alors, c'est ça qui est très bien, c'est qu'il a toujours des plans calculés et qui se déploient sur des mois et des mois. Et en plus de ça, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Uncanny X-Force, c'est que il travaille vraiment en collaboration avec les mecs qui sont sur les autres titres X-Men du moment.
Ils font vivre la série dans le multivers, c'est ça ?
C'est ça, il reprend des personnages de Morrison, donc qui datent de 2001, comme Phantom X. Il reprend des personnages que au même moment à côté, il faut savoir que Jason Aaron scénarise Wolverine et une autre série X-Men qui s'appelle Wolverine and the X-Men.
Alors Jason Aaron, on en a déjà parlé, c'est l'auteur actuel de
Thor, les bâtards du sud, tout ça.
Les bâtards du sud, Seven Bastards. Voilà.
Et enfin voilà, c'est un mec qui arrive à très bien à travailler en collaboration avec ses autres, on va dire les riverains sur les autres titres.
Les riverains, les voisins. Voilà. Et les voisins de l'open space.
Et voilà, et il reprend toute cette histoire d'Apocalypse, en fait, va se répercuter après sur le titre de Jason Aaron. On va voir Deathlok qui apparaît dans les titres de Rick Remender, mais qui fait suite au titre Weapon X qu'avait scénarisé Jason Aaron avant.
Donc en fait,
et ça se renvoie la balle. Et
c'est un des aspects qui est intéressant, mais qui en même temps peut faire perdre le fil à beaucoup de nouveaux lecteurs.
Non, justement, parce que Zef a lu Uncanny X-Force et il me semble pas que Zef ait été perdu par quoi que ce soit.
Absolument pas. Non, ça scie d'une traite. T'as pas besoin de connaître l'origine des personnages, même, ou savoir comment ils ont apparu dans
c'est
l'univers.
C'est assez bien écrit pour être d'accord.
Du numéro 1 jusqu'à la fin, ça se dit tout seul en fait. C'est Warpass par ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça.
Ben,
j'avais pas fini.
Ben,
non,
vas-y.
Bon, Ben,
non,
vas-y.
Non, je vais donner mon avis, mais apparemment tout le monde s'en fout, donc c'est
vas-y,
pas grave.
Vas-y, je reviendrai après.
Non, mais vas-y, finis ta petite présentation des collègues.
D'accord. Je voulais parler de Remender. Uncanny X-Force, faut savoir que c'est son second gros projet chez Marvel. Avant ça, il était sur Punisher. Il bossait avec Matt Fraction. Le Punisher War Journal qui était créé pendant pendant Civil War, en fait, tout simplement. Et après, Remender a repris le morceau et a commencé à créer des personnages un peu farfelus, à mettre le costume de Captain America sur Punisher. C'est lui qui a commencé à faire cette histoire un peu barrée, qui a abouti ensuite sur Frankencastle, où on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est Punisher coupé en plein de petits morceaux par le fils de Wolverine et rapiécé par les monstres de l'univers Marvel pour en faire un défenseur de leur territoire à eux.
D'accord.
Et ce côté Frankencastle, voilà. Et voilà, en fait, à partir de ce moment-là, Rick Remender, il a un petit peu carte blanche sur ce qu'il veut, sur les titres, on va dire, pas ultra connus de l'univers Marvel, mais suffisamment bien, comment dire, référencés auprès des lecteurs pour pouvoir justement bosser dessus et proposer des idées complètement novatrices. Donc, comme cette histoire d'Apocalypse qui a 12 ans, juste après, il bosse aussi sur Venom qui va complètement changer en agent Venom avec Flash Thompson à la place de. Je sais plus comment s'appelait.
Eddie Brock, une tuerie complètement folle.
Et du coup, et puis en plus, ces histoires continuent à se répercuter sur d'autres titres, comme j'avais dit tout à l'heure, Uncanny Avengers. Il y a une histoire aussi avec des, les Deathlok là justement dans le second run.
Oui.
Et ben, c'est une histoire qui se développe après dans les Secret Avengers.
En fait,
de Rick Remender.
Ça c'est une des parties les plus difficiles à lire parce que c'est un avant en fait avant.
Tu sens que ça a pas forcément un avant, mais tu sens que c'est. Il fait exprès de pas tout dire à ce moment-là pour justement en balancer la sauce dans Secret Avengers.
Ça perd un tout petit peu entre les deux TPB.
Bah en fait,
ça c'est très bien. Ça
c'est le seul
bien.
Moment où ça parle pas d'Apocalypse et c'est le seul moment où ça retombe un peu. Mais sinon, Uncanny X-Force, il faut lire. C'est vraiment très très bon. On n'a pas parlé encore des dessinateurs, mais je pense que Ben.
On en parle un petit peu.
Ouais,
en fait, je vais essayer de faire rapide. En fait, j'ai adoré. Je trouve que ce titre est vraiment à l'image de la team en fait de X-Force. C'est solide, c'est audacieux, c'est efficace, ça pète la gueule quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne raison de faire une équipe que de dire voilà, c'est vraiment ceux qui veulent faire le sale boulot et qu'il y a qu'eux qui peuvent le faire, genre un peu l'agence touriste, tu vois.
On n'a pas l'impression que c'est des gens qui ont été ramassés.
Oui, voilà, des fois
t'as
des teams, mais pourquoi un peu ce que disait Gaillard tout à l'heure, mais là, bon, voilà, on sait pourquoi ils sont là et ça fonctionne très bien. Cependant, pour finir sur le scénario avant de parler des dessins, je suis. En tant que justement beaucoup plus noob que eux deux sur le truc, à aucun moment j'ai été bloqué. Remender fait son taf, il pose les trucs, c'est clair sur où va l'histoire, qui sont les personnages. Mais j'ai trouvé, en fait, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup Wikipédia, surtout sur les comics pour voir le background des super-héros. Et même si c'est pas bloquant parce que les persos sont bien décrits sur le moment et sur ce qu'ils font, je trouve que ne pas avoir le background c'est dommage. Parce que justement, ce que disait Zef, il disait on peut lire d'une traite sans avoir le background. Oui, on peut, mais je trouve que c'est dommage parce que on perd un peu parce que vu que l'intérêt, en tout cas pour moi, c'est les personnages de cette, enfin les personnes de cette team. Même si c'est Apocalypse, ça aurait pu être un autre ennemi. Même si lui, c'est vraiment une grave menace. Pour moi, l'intérêt de Uncanny X-Force, c'est la team, qui sont les personnes dedans, comment elles font pour cohabiter ensemble, pour combattre. Voilà. Et donc, si on n'a pas le background, ça fonctionne très bien. Mais si on n'a pas le background des personnages, je trouve qu'on perd quelque chose parce que justement, en mettant aidé de Wikipédia, j'ai dit ah ouais, donc Fantomex, que je connaissais pas du tout parce que je rigolais quand même à son nom, mais je connaissais pas. Et au final, savoir qu'il faisait partie du projet Weapon X et tout ça, du coup, il a un lien avec Wolverine parce que c'est pas forcément évident tout de suite. Donc voilà, c'est des petits trucs qui, quand t'es pas, tu baignes pas dedans comme Zef et Gaylor, t'as pas forcément toutes les connexions tout de suite et du coup, tu perds un petit peu de la saveur. Pas beaucoup, donc tu profites, mais tu perds un petit peu de la saveur. Et donc voilà, donc je me dis, si vous voulez utiliser Wikipédia, faites-le, c'est très bien, mais du coup, c'est quand même pas ultra accessible à 100%. Voilà, mais il faut pas non plus que ça vous fasse peur, hein. Je sais pas ce que je dis. Juste, oui, non, vas-y, Gaylor.
J'avais juste une question pour toi, t'as utilisé Wikipédia, mais en fait, tu expliques pas pourquoi en fait.
Pour le background des persos, pour savoir genre Fantomex qui était-il, le rapport comme enfin Psylocke et Angel, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Ce genre de... Après c'est peut-être sûrement juste de la curiosité de ma part et encore une fois je dis pas que on a besoin de ça pour suivre le comic, c'est pour apprécier, pas du tout. Je dis juste que
j'avais pas compris, d'accord.
Voilà. Pour les dessins, effectivement j'ai trouvé ça sublime. Le trait est complètement ouf. Les couleurs, bah le trait, juste dire complètement ouf, ça suffit je pense parce que c'est vraiment très soigné. Les couleurs, il y a vraiment un super jeu de lumière. À chaque fois, tu vois, vu qu'ils sont rarement dans une cuisine ou dans un réfectoire, ils sont souvent dans l'espace plutôt, ou dans des cavernes ou des trucs un peu glauques et tout. Il y a toujours une super lumière qui va dessiner avec une très belle couleur. Les Zef a parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils ont chacun leur couleur et des fois ça se remet dans les cases et tout.
Ils ont chacun leur histoire en plus.
Voilà, c'est ça. Et donc en fait, vraiment, c'est très 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 beau. Et petit big up à mon pote Esad Ribic qui donc a bossé aussi avec Jason Aaron sur God of Thunder, qui là il dessinait, mais là il fait juste les covers et elles sont sublimes. Donc voilà, gros coup de cœur, je peux le dire, et il faut le lire, c'est cool.
Pardon.
Le mec.
Non, je suis en train de lire les cases. Zep.
Non, mais du coup, enfin, je voulais interagir, mais je crois que Nekoto a tout résumé sur ce que je voulais dire.
J'ai juste oublié de dire. Parfait, en fait. Juste oublié de dire que les costumes gris, c'est-à-dire la version gris de tous leurs costumes, c'est super cool parce que ça fait une homogénéité.
Oui, ça fait un peu un palette swap, mais bon. Gaylor.
Finir sur les dessinateurs. Donc, tu parlais de. Toi, t'as lu le premier run, c'est ça. Donc, Jérôme Opeña.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Bah, c'est super, super ouf. Et dans le second run, tu parlais justement des Ad Ribic.
Il dessine ?
Il dessine le second run, ouais.
Ouh, je vais lire !
Il dessine le second run, mais c'est moins fou que Thor et que Secret Wars, parce que dans Secret Wars et Thor, il faisait aussi les couleurs.
D'accord, là, il fait que le trait,
ça reste très, très et largement
au-dessus de la moyenne.
C'est le même coloriste ou pas ? Bah non, normalement, c'est lui qui fait les couleurs aussi de Thor et de...
Non, mais je veux dire, le même coloriste que le premier arc de Nintendo.
Oui.
Ok, d'accord. D'accord, bon,
oui, du coup évidemment, donc je suis pas sûr qu'on l'ait dit au début, c'est une série qui date quand même de 2010, donc aujourd'hui vous pouvez quand même le trouver, que ce soit en anglais ou en français, chez donc les éditeurs respectifs.
On a dit combien, 5 TPV
en français, c'est difficile à trouver.
Ah, tu veux dire que ça a été publié une première fois dans les années
2010, j'ai voulu l'offrir à un pote il y a pas longtemps.
Ah ouais, c'est
vraiment dur à trouver.
D'accord.
J'ai dû le commander et tout. C'est
compliqué aussi, alors parce que voilà, Panini a une politique assez bizarre au niveau des parutions. Voilà, bref. Mais aussi parce qu'ils ont voulu publier aussi ça dans la suite de la série d'avant, Uncanny X-Force. Et du coup, tu as par exemple un numéro de transition où tu as le début du run de Remender et la fin du run du truc d'avant, quoi.
Okay.
Un truc assez dégueulasse, quoi.
Ouais, un peu fouillis.
Ouais.
Du coup, voilà, encore une fois, vous retrouvez les informations sur le site de Radio Kawa. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Luke Cage. À tout de suite.
Oh mais dis donc, ce paysage culturel est bien trop fourni, je ne sais pas comment faire.
Alors comme ça, on est perdu dans ce monde postmoderne où tout n'est plus référence. Grâce à Parodia Dravsody et à Radio Kawa, ne soyez plus jamais dans la panade. Offrez-vous à chaque épisode des parodies authentiques originaires des quatre coins du monde. Mais ce n'est pas tout. Découvrez tout le sous-texte des parodies grâce au magnifique fascicule audio de 30 à 45 minutes. Alors, n'hésitez plus. Écoutez Parodia Dravsody.
Merci Radio Kawa.
Sweet Christmas.
Oh, nice. De retour
alors,
pour cette dernière partie de Comics Outcast. J'ai envie de me taire.
Oh non.
Ah bah, coupé quoi. De retour donc pour parler de Luke Cage, la nouvelle série Netflix qui fait partie du Marvel Cinematic Universe, au même titre que des séries dont vous avez peut-être entendu parler comme Daredevil et Jessica Jones. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc c'est bien sûr disponible sur Netflix depuis la fin du mois
tous les
septembre. 13 épisodes d'en gros une heure, centré sur un personnage qu'on a déjà vu en fait. Hein, si vous avez vu Jessica Jones en début d'année, vous l'avez déjà croisé. Je vous dis pas ce qui lui arrive, mais on lui a donné sa propre série. Tout ça dans un cadre un peu plus empirique, dans le sens où dans deux ans, ou non, c'est l'année prochaine, on aura une série qui s'appellera les Defenders, dans laquelle figureront encore une fois Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et un personnage qu'on n'a pas encore vu mais qui arrive l'année prochaine, qui est Iron Fist.
Iron Fist arrive avant Defenders ou après?
Oui, mais c'est l'année prochaine. Je crois que c'est en mars on a Iron Fist et en octobre. Tu dis pardon?
Aussitôt, enfin c'est pas grave.
Oui, c'est ça, les deux c'est l'année prochaine.
C'est printemps quoi. Oui, non, mais je pense qu'Iron Fist arrive plus tard.
Ouais, c'est en mars.
Non, ça s'enchaîne très vite.
Il y a eu le trailer à la Comic Con.
Et du coup, alors, on va présenter. Est-ce que quelqu'un ici peut présenter rapidement le personnage de Luke Cage? Alors, on va peut-être faire une micro comparaison personnage classique et personnage de la série Netflix. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit background?
Je peux le présenter très brièvement. C'est un personnage qui a été créé en 1972, il me semble. Je me souviens plus des.
J'ai envie de dire bonne réponse, mais je n'ai pas.
Je me souviens juste du dessinateur, c'était Romita Senior. Très très beau. Et ça reprend à peu près ce qu'on voit dans la série. Et ça sera un de mes points négatifs, mais. Enfin voilà, il y a des trucs qui fonctionnaient dans les années 70 qui fonctionnent pas en 2016 au niveau de je m'échappe de prison et on me reconnaît plus et enfin voilà, bref, voilà. Je change de prison et je me rase la tête et ça va.
Il y a beaucoup de choses à dire, ça bouge pas.
Alors du coup, donc la série, je l'ai déjà dit, elle fait partie du MCU. Évidemment, si vous avez déjà vu donc les autres séries, vous savez déjà que même si elle est liée, bon, il n'y a pas forcément d'interaction, enfin ça va que dans un sens hein, c'est plutôt la série vers les films, pas les films vers la série. Ben, tu voulais dire?
Oui, je le dois comme un petit élève. Non, c'est juste c'est pas pour dire que Gellar a mal fait son boulot, mais il a pas dit que c'était un gros Renoir qui a une peau indestructible et une force surhumaine.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, voilà. Je suis en train de faire une présentation.
À la base, je faisais une présentation.
C'est le prof qui t'a coupé, salaud.
Ouais.
Donc voilà, il est noir.
Et c'est pas un mutant.
Un truc intéressant qu'on peut dire, c'est qu'à la base, il a juste le pouvoir d'avoir la peau indestructible.
Voilà.
Mais je sais pas, petit à petit dans les comics, s'est instaurée cette idée qu'il a une super force en fait.
Ah,
je crois que c'est depuis Bendis en fait, quand il a commencé à le reprendre dans Alias, la série sur Jessica Jones,
justement,
puis ensuite dans New Avengers. Il s'est mis d'un coup à soulever des bagnoles, soulever des camions, et avoir une super force.
Ils lui ont associé le pouvoir par défaut, quoi.
Voilà, maintenant c'est devenu le Hulk Black de Harlem, quoi.
D'accord.
Grosso modo, quoi.
Du coup, l'axe qu'on va prendre pour présenter la série, on a choisi trois choses qu'on a vraiment appréciées, trois choses qu'on aime beaucoup moins, et on vous donnera notre avis général dessus. Et donc, ça nous permettra de passer en revue les grands points que la série aborde. Alors, du coup, qui veut commencer? Est-ce que Ben?
Allez.
Ouais, vas-y, Ben, chouchou.
Ok, juste dire avant ça que c'est juste pour présenter, c'est une origin story où on suit la progression du héros. De quand il était flic, il a fait de la tôle, et il est maintenant il est à New York, à Harlem, et avec ses pouvoirs, il décide de sauver la veuve et l'orphelin. Très simplement, c'est
ça. Oui, voilà, ça t'as vraiment résumé.
Parce que oui, non, mais
il y a beaucoup de.
Évidemment, il y a les méchants, les méchants, les gentils, voilà. Trois choses que j'ai aimées, je les dis direct.
Vas-y.
Ok, déjà, la première chose qui m'a frappé, parce que je pense que dès le premier épisode, moi, ça m'a frappé dans le bon sens, c'est la photo. La photo et la réalisation, enfin la réalisation d'une manière générale, et plus particulièrement la photo et certains découpages de plans, je trouve que c'est très soigné, beaucoup plus que dans Daredevil ou Jessica Jones, parce qu'on est obligé de faire le parallèle,
parce que c'est quand même les deux références qu'on a.
Là, même s'il y avait vraiment une certaine élégance dans les deux autres, là j'ai vraiment trouvé, peut-être parce qu'il y a ce côté un peu jazzy, un peu, tu vois, assez élégant, il y a un nightclub, etc. Mais j'ai trouvé que les couleurs étaient très belles. Le méchant est toujours ultra bien sapé, enfin l'un des méchants est toujours ultra bien sapé. Il y a des plans vraiment très beaux qui jouent aussi avec le cadre, avec les couleurs, le mobilier. Enfin, c'est bête dit comme ça, mais ça fonctionne très bien. Effectivement, quand il est dans la rue, ça marche un peu moins bien. mais voilà, en fait, c'est, ça peut être inégal, mais en tout cas, quand la photo est travaillée, elle est très belle.
D'accord.
Deuxième point, le, donc, j'ai dit l'un des deux méchants, donc, qui va s'appeler Cottonmouth. Qui,
il aime pas qu'on l'appelle comme ça.
Non, il aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais c'est son nom. Qui va être en duo avec sa cousine qui s'appelle Maria Dillard, je crois, qui est donc une députée ou une.
Non,
une
councilwoman,
ouais,
donc je dirais une
femme politique, quoi.
Voilà, une sénat... municipale.
Oui, voilà. Ouais, voilà.
Oh, exactement.
Qui en fait donc, sont les méchants, on va dire, des deux tiers de la série.
On va être même plus précis, on va dire antagoniste.
Exactement.
Plutôt que méchant.
Et en fait. Ça joue aussi vachement sur le... Enfin, ça tient vachement aussi au jeu des acteurs qui, je trouve, quasiment tout le monde joue plutôt très bien dans cette série, je trouve. Cottonmouth, je trouve qu'il a vraiment, c'est vraiment... Il joue pour moi le mafieux. Effectivement, c'est peut-être là que Gaylord fera une critique par rapport aux années 70, mais en tout cas, je trouve qu'il est vraiment bien implanté. C'est vraiment le mafieux, tu vois, toujours en costard, qui a des sbires et qui...
Ouais. Il se salit pas.
Bah, ça dépend. C'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il en jette. L'acteur joue vraiment très bien, tu vois. Quand il lui arrive une merde, il se met à éclater de rire et ensuite il devient tout sérieux. Bon, on est très loin d'un Joker, hein. Je dis pas qu'il est fou, mais.
L'acteur, d'ailleurs, on l'a déjà vu.
L'acteur, on l'a vu, c'est le mec qui joue dans. Enfin, un des mecs qui joue dans les 4400, donc c'est un des 4400.
Ah oui, c'est le père de la. Enfin, il est avec une blanche, ils ont une fille qui grandit très vite.
Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Je sais juste qu'il avait un manteau avec le mec. Bref. Il joue aussi dans House of Cards.
Ouais.
J'ai oublié son nom, je suis désolé.
C'est
mais
Rémi.
Non, Rémi mais bon, son nom d'acteur.
Mahershala Ali.
Voilà, putain, le mec connaît tout. Bref, donc voilà, lui, j'ai trouvé qu'il était hyper solide. Maria, qui au début, donc c'est un duo depuis le départ, mais elle est un petit peu plus en retrait parce que, bah, du coup, femme politique, personne publique, du coup, elle se salit moins les mains. Mais en fait, c'est elle le vrai méchant pour moi de la série. Elle va faire une ascension jusqu'à la fin où ça va être elle le vrai méchant, quoi. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça. Un bon méchant, c'est toujours ultra solide, donc j'ai trouvé ça très bien. Et le dernier point positif, c'est la place des femmes dans cette série. Donc, ok, on est dans une époque où justement c'est bien de mettre des personnages féminins forts parce qu'avant il n'y en avait pas et que c'était de la merde, donc ça c'est bien. Je sais pas si c'est pour le côté Luke Cage est un homme à femme, ou en tout cas c'est l'homme central et du coup il y a plein de femmes fortes qui tournent autour de lui. Gravite, voilà, merci, cher le mot. On a donc la femme flic qui va un peu enquêter sur tout ce bordel qui se passe, c'est Misty. On a Maria, donc j'en ai parlé, la méchante. Et il y a une personne que vous avez déjà vue si vous avez maté Daredevil et ou Jessica Jones, c'est Claire, qui est jouée par Rosario Dawson, qui elle va être un peu la béquille de Luke Cage, qui va un peu l'aider
littéralement
quand oui, mais d'ailleurs beaucoup plus que dans Daredevil ou ouais. Jessica, je sais même pas si elle était dans Jessica Jones,
si elle était dans c'est possible, un épisode, je crois,
tu vois, j'ai un peu oublié, mais voilà, là elle creuse vraiment son rôle comme il faut. Et donc ça, il y a aussi la chef de police qui est aussi une femme. Enfin voilà, il y a d'autres personnages masculins, mais en tout cas les femmes de cette série.
Tu trouves que ça, enfin tu parlais de notre époque où on met des choses pour forcer un peu les choses. C'est pas là.
Non,
tu trouves pas que c'est pas forcé là dedans.
Non parce que enfin je sais pas la démarche, mais en tout cas le résultat est naturel et
les
personnages sont bien écrits. Enfin c'est vraiment le fait que ce soit des femmes, c'est important et c'est vraiment bien.
On va demander son avis, les trois choses que Gaylord a préférées.
D'accord. tu as dit la BO ou pas?
Non.
Je peux le prendre, je le prends.
Il a littéralement parlé il y a une minute.
Je prends la main.
Il a peut-être dit au début, je sais pas.
Non.
J'ai oublié.
On avait que trois trucs.
Oui. Non, la BO que vous entendez actuellement, qu'Adrien nous passe depuis tout à l'heure, est vraiment très très bonne pour moi. C'est le point fort de la série.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre comme point? Ah oui, l'acteur, enfin Luke Cage.
Mike Colter.
Putain, on le baise hein, quand même. Hein.
Moi non, mais
ah,
ouais.
Si,
non, mais ça fait pas une série.
Mais c'est ce qu'il a aimé.
Je réagis juste, je dis.
Je le baisse.
En fait, j'ai trouvé plutôt monolithique et plutôt mono-expression.
Alors, si on part direct dans les points négatifs, moi j'ai trouvé assez.
Non, on reste sur les positifs.
Très très molle. Et troisième point positif. Pas ça, Zef. Moi je reviendrai, je réfléchis au troisième point positif.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apprécié, toi, Zef?
En fait, je vais rebondir sur ce que je disais. Gaylord, la BO. La BO est vraiment cool. Elle est vraiment. Et pourtant, c'est pas mon type de musique à la base.
Clairement pas, non.
Clairement pas, mais franchement, j'ai kiffé. Et quand on a pu l'écouter sur le net il y a pas longtemps, j'ai kiffé ma race et je l'ai écouté en boucle toute la soirée.
Les deux autres trucs, choses que tu as aimé.
Deux autres trucs. Alors, faut que je cherche. Parce que j'en ai pas.
Pendant qu'il cherche, je peux dire un
truc. Moi, je voulais dire un truc.
Non, mais je vais.
Putain, mais le relou!
Bah, vas-y, dis ça.
Oh, non, mais en fait, je parlais juste en fait. Je plaisantais en disant non, je cherche, mais voilà. Les méchants sont très bons, comme tu disais. Ils sont vraiment excellents, même s'il y a des points négatifs sur l'acting. Et le dernier point positif que je peux trouver à cette série, parce que je suis pas très fan, c'est le petit easter egg entre guillemets de la création de personnages où, de, où il retrouve ses pouvoirs, où on retrouve son costume.
C'est, ah, tout.
C'est dans le deuxième épisode, je crois, ou
quatrième ou cinquième.
Enfin, moi, j'ai pas fini. Hein. Je suis au sixième épisode et j'ai l'impression de la.
C'est à la fin du flashback. Ouais.
Il y a un petit clin d'œil cool.
Attends, j'ai retrouvé un truc. Alors, on a bien aimé la VO, certes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'implantation de la BO dans la série. À savoir qu'on est toujours dans un musical, un dead zone.
C'est ce que je l'ai dit.
Tu l'as dit.
Donc, en fait, t'es dans tes trois points positifs.
C'est la musique.
Il a parlé genre 20 secondes avant Gaylord.
Espèce d'escroc, quoi.
On va passer au point négatif. Oui. On va faire le même ordre.
Allez. Point négatif. Alors, je l'ai dit, Cottonmouth et Maria sont, tu l'as dit, les antagonistes sur les deux tiers. Parce que, sans spoiler, au troisième tiers, il y a un méchant dont on entend le nom depuis le début, qui est Diamondback, qui vient, qui entre en scène en fait à partir de, du dernier tiers de la série, enfin de la première saison, pardon. Et en fait. Déjà, premièrement, on en parle pendant les deux premiers tiers, donc du coup, je me dis, ok, c'est un mec de ouf, c'est vraiment, c'est le caïd, mais plus, quoi. Et en fait, pas tant que ça, c'est juste un ennemi de plus, en fait. Et ce que j'ai vraiment pas aimé sur ça, c'est, et d'ailleurs, c'est mon deuxième point, et mon premier point, c'est un peu les deux, c'est...
toi aussi, d'accord.
Non, parce que le deuxième point, c'est le fait qu'il y ait un flashback, une backstory qui soit liée à Luke Cage. En fait, il y a des flashbacks sur leur enfance qui sont pas trop mal, mais en fait, j'ai trouvé ça mal amené parce que... Les deux tiers de la série, on avait un côté justicier contre contre la pègre et tout ça, contre la ville elle-même de Harlem, et qu'ils se battaient pour Harlem. Et là, t'as un mec qui vient du passé de Luke Cage, donc ok, pourquoi pas. Surtout que le passé de Luke Cage peut être intéressant quand il est en prison, etc. Mais là, c'est juste le mec, il est jaloux, enfin, il est quoi ?
N'en révèle pas trop.
Ok. Il en veut à Luke Cage, et en fait, il sort un peu de nulle part alors que c'était censé être le méga boss de la pègre de Harlem. Et du coup, j'ai trouvé ça mal amené. Et en plus, l'acteur est pas mauvais, mais il a rien amené. Alors que Cottonmouth est dix fois plus
charismatique.
Et le dernier truc, c'est ce que je disais à Gaylord tout à l'heure, c'est qu'en fait, je trouve que Luke Cage, l'acteur, n'est pas mauvais, mais en fait, il est pas vraiment. Il montre pas son jeu d'acteur. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais acteur, mais dans l'action et tout, c'est bien. Mais en fait, il a pas un portefeuille d'expression très fourni. Après, dans ses flashbacks, effectivement, il joue une autre époque et un autre état d'esprit, ça fonctionne. Il sait jouer à un autre genre de personnage, mais à l'état présent, Luke Cage et tout, il est pas hyper. Je me suis pas vraiment attaché à lui, quoi.
D'accord. Voilà. Gaylord, tes points négatifs.
Eh ben, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, Luke Cage, on le voit pas beaucoup s'exprimer, mais pour moi, ça relève le défaut majeur de la série, c'est que, qu'est-ce que c'est mou.
Luke Cage est très très passif. Hein.
Alors le personnage
en attente,
est.
C'est souvent les autres personnages qui font son boulot à sa place.
Au début, je me suis dit, ça allait être une espèce de Bruce Lee qui, à un moment, encaisse, genre il a son serment, genre non, j'ai promis de plus me battre, et puis d'un coup, il explose et il pète la gueule de tout le monde. J'en suis à 10 épisodes et vas-y, lâche quoi, passe la seconde quoi.
Tu me rassures pas.
Et c'est mou. Voilà, le rythme est mou. En fait, du manière générale, la série, 13 épisodes, c'est beaucoup trop long quoi. 13 épisodes pour ça. Enfin, c'est moi, j'en suis au 10e et je me dis là, franchement, ils auraient pu faire une série de 7 épisodes. Tu vois, j'ai l'impression.
Ah ouais, carrément.
Franchement, Netflix, ils ont un format de 13 épisodes, mais qui se sentent pas obligés de l'appliquer tout le temps.
C'est pas eux, hein. Enfin,
comme par hasard, Daredevil, Jessica Jones.
Non, mais Netflix, c'est Marvel, mais les autres
Netflix,
séries.
Ah ouais. Non, je parle de Netflix Marvel. Ouais. On reste dans l'univers Marvel. Ouais. Voilà, il y a le truc. Voilà, Iron Fist, je te le parie, ça sera 13 épisodes.
Ah oui,
aussi.
C'est sûr. Oui.
Peut-être qu'ils vont bien exploiter l'espace qu'ils auront, mais Luke Cage, ça se traîne,
c'est étalé complètement.
Très très lent.
Il faut. Enfin.
Non, vas-y, excuse-moi.
Il faut peut-être voir s'il n'y a pas eu un truc dans le scénario qui a demandé à rallonger le truc, comme il y avait eu sur Jessica Jones, où il y avait un temps mort parce que. Scénaristiquement, il y avait un problème, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être ça l'idée. Quoi.
Un deuxième point qui m'a pas vraiment plu, c'est il y a cette espèce de. Surtout au début de la série, ça se calme après, c'est ce combat constant de punchline. Ça s'envoie des punchlines, mais des vieux trucs, genre, tu vois, money, steel, green, tu vois, des trucs comme ça. Ils s'envoient toujours des.
Ça, je pense que c'est inhérent à l'univers de la mafia.
Genre dans les comics, ça arrive jamais.
Ouais, mais pas toutes les cases tout le temps, tu vois. Ça dépend.
Et enfin,
petite mention au portoricain à lunettes qui me rappelle les meilleurs moments de Prison Break saison 3.
Ah, mais il a joué dans Sons of Anarchy surtout.
Oh là là, mais il sert à rien.
Attends, tu parles de qui?
Je suis pas d'accord.
Tu parles
du deuxième méchant qui vient
Shades.
En disant.
Ah, Shades.
Le mec qui arrive toujours derrière.
Je pensais que tu parlais du.
Toi qui sort d'une porte à chaque fois, t'as les lunettes noires comme ça. Toi qui se dandine un peu. Il est là.
En fait, c'est lui qui construit Maria qui est le vrai méchant, donc je trouve qu'il est important.
Mais il construit rien du tout.
Bien sûr qu'il construit, mon gars.
Mais non.
Bah, t'as pas lu.
Mais attends, mais j'aurais lu jusqu'au 10. Et il se passe un truc avec Maria. Et il en profite, quoi, mais il construit rien, quoi.
Bah, je pense que tu as mal vu.
Merci, Guilhem, pour tes avis. Et enfin, qu'est-ce que toi, Zef, tu n'as pas aimé? Parce qu'on sait que t'as pas déjà été très emballé, mais est-ce que
alors,
tu peux
préciser? Alors, il y a trop de choses à dire, donc je vais limiter à 3.
Oh là là, carrément.
Non, mais ça va être une redite, donc c'est un peu dommage. Mais Luke Cage, l'acteur déjà dans Jessica Jones, je le trouvais mais amorphe, vraiment. Et là, il n'est pas mieux, quoi. Il faut lui donner du gronzant un peu à ce gars. Enfin, je suis un peu méchant, mais franchement, je me dis, mais le gars, enfin, moi je suis au 6ème épisode et je me dis, si j'ai encore supporté ça pendant plus de la moitié, c'est chaud, quoi. Il est très lent. Je trouve, comme Zegelor, que faut qu'il se réveille un petit peu, il faut qu'il devienne un super héros, parce que je crois que ça commence à bouger vraiment à l'épisode 3 ou 4. Tu te dis, bon, s'il faut attendre encore une fois la moitié de la série pour commencer à kiffer un truc, c'est quand même long. Et dernier truc mauvais, c'est trop. Tout est trop lent, en fait.
Ouais,
tout
d'accord.
Est putain de trop lent. Je sais pas, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai préféré ça à Jessica Jones, parce que Jessica Jones, on me disait, ouais, c'est trop lent. Putain, mais les gars, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Là, je trouve ça. Jessica Jones, on avait une punchline, on avait un héros qui était un peu punchy, un peu vénère, même si un peu débilos parfois sur certaines actions, je dis pas, mais là, on a un personnage qui amorphe, qui fait rien, qui prend des coups dans la gueule, qui dit. Fais gaffe, sinon je t'en mets une. Mais en fait, on vient de te mettre 50 balles dans la gueule, donc si tu veux réagir, c'est maintenant qu'il faut le faire, en fait.
Ouais.
Et je trouve que il est un peu à l'opposé du perso comics, qui est peut-être un peu trop, plus violent, quoi.
Qui a plus ce sang chaud, quoi.
Clairement.
Je veux dire, c'est normal qu'on te tire dessus, point destructible ou pas, le mec, tu le défends.
Alors, je veux bien, comme disait Nekoto, que c'est un peu, je vais pas dire une origin story, mais une montée en puissance du personnage.
Moi, je pense
truc.
Que c'est ça. Hein.
Je comprends. C'est peut-être dans ce sens-là, en disant, ok, je vais attendre de me vénère vraiment pour montrer qui je suis. Mais là, épisode 5, il s'énerve un petit peu, mais il se passe plus rien, en fait.
Il est pas obligé de se vénère pour que ça avance, hein.
Non, mais il se passe rien, en fait. Il tape personne.
Alors, on parle pas du fait que ça avance, on parle juste du fait que le personnage réagisse et qu'il soit
l'histoire,
un peu plus punchy,
l'histoire, de fait, parce qu'il met du temps à réagir, qu'il me fasse mettre du temps à le réagir, l'histoire n'avance pas non plus, en fait.
Alors, du coup, pour finir très rapidement, est-ce que, on l'a dit en introduction, on a dit que l'année prochaine, il y aurait à la fois Iron Fist et Defenders. Est-ce que cette série vous chauffe pour ce qui va suivre, ou à l'inverse, vous dit, là, je vois que sur 3, vous êtes 2 à être plutôt sur la moyenne, voire le bas. Ben est un petit peu plus optimiste que vous deux. Est-ce que vous, pour l'année prochaine, donc les deux prochaines séries qui vont sortir, vous êtes chaud ou pas? Très rapidement, oui, non.
Oui, je suis chaud, parce que je pense que on a vu 3 des 4 persos et que y a ces 3 caractères bien différents, mais que je les imagine bien dynamiser ensemble.
Effectivement, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'informations, à part fait que ce soit
Mais en fait, les
un Tyrell qui jouera.
Les univers sont bien posés pour les 3 premiers. Je pense qu'Iron Fist, ça va être au moins aussi bien, et du coup, moi, je suis assez confiant.
Gaylor, ton avis là-dessus?
Bizarrement, je suis chaud pour Iron Fist, parce qu'il y a tout ce background, justement, arts martiaux chinois, tout ça, qui fait que j'espère que ça va tataner grave,
qu'on a déjà un peu vu dans Daredevil, justement. Et
oui, voilà. Et je suis aussi chaud pour Defender, parce que forcément ils vont être 4, donc du coup ça va être plus facile de meubler l'espace.
Ils vont être 5, il y a clair.
Ah ouais.
Et enfin, Zef?
Alors, je suis complètement chaud pour Iron Fist, surtout que ça vient après Doctor Strange, donc tout le côté magie et tout sera complètement développé. Là, on pourra vraiment avoir un truc intéressant. Et comme disait Gaylor, ça va peut-être tataner un peu plus. Maintenant, je dis pas que Luke Cage j'aime pas parce que ça tatane pas. J'ai juste que je trouve ça trop lent par rapport à l'histoire. En fait, c'est ça, juste ça. Mais Ace Defender, j'ai un tout petit peu peur, mais j'ai la même peur que j'avais pour le film des The Avengers, c'est que chacun doit avoir son temps à l'écran. Ouais. Et j'ai peur que ce soit un peu trop partagé.
Pour le coup, là, il va y avoir 13 heures chacun.
Oui,
c'est ce que j'allais dire en finissant, c'est que comme c'est une série, normalement, ce sera assez bien étalé. Donc, je suis plus chaud pour The Defender que pour la fin de Luke Cage et Iron Fist.
Ah, mais puis là, t'arrives dans le ventre mou de la série de Luke Cage, là,
ça va être dur.
Alors, comme j'ai dit au début, c'est une série Netflix. Oui, je fais des gestes un peu orientaux quand je veux prendre la parole. Série Netflix disponible donc en streaming moyennant finance. Vous pouvez l'écouter en version originale, originale en anglais pour entendre des mots grossiers, ou vous pouvez l'écouter en français pour entendre des traductions qui, à mon sens, et on n'en parlera pas, c'est pour ça que je l'ai dit à la fin.
Attends, t'en parles, mais tu veux pas en parler.
Traduire nigar par abruti, je trouve ça abusé.
Nigar.
Ça veut dire nigar, c'est quoi en français?
Négro, nègre.
Négrier.
Non, tu le disais à la française, ça faisait nigar. Espèce de petit nigar.
Nigar,
quoi, hein,
nigar. N-I-G-R-D, tu vois.
Nigar à
quoi? Insulte. Ok, non, ça c'était pas drôle du tout. C'est la fin de cette émission. Bouton.
Bouton.
C'est
pourquoi pas. Ok.
C'est la fin de cette 57e émission de Comics Outcast. Comme d'habitude, on va remercier nos chroniqueurs. Merci Gaylor.
Merci à toi.
Merci Ben.
Je t'en supplie.
Merci Zeph.
Merci à toi.
Et la personne que j'ai oublié
Adrien.
De citer au début et le spoil.
Ah mais t'étais
même.
Là Adrien, putain, t'as pas vu.
C'est lui qui nous lance les jingles et qui mixe le son et qui, enfin, qui nous permet de faire cette émission en fait. C'est Adrien.
Ouais.
Merci pour l'accueil, merci pour le pour tout ce que tu fais pour nous, bisous bisous. Et pour l'OST hein, de Luke Cage
la
qu'on a acheté cher.
La bande originale film.
On se donne rendez-vous dans deux semaines. Ce sera quand? Ce sera le 31 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 31 octobre? C'est la veille de
Halloween.
La Toussaint. Mais quand on a les pieds un peu plus
ça
sur le continent.
Halloween.
Ouais, comme sur les pubs Disney là, dans
fumier,
le sous-bus.
C'est juste un fumier. C'est
je
tout.
Ne peux même pas finir ma conclusion. Comme on a un pied plus aux États-Unis qu'en France, on va le
j'ai
fêter
compris,
avec
ouais.
vous parce que vous avez pas écouté le début. Mais qui n'écoute jamais. Comme
il a rien compris
vous
Ben aussi.
Retrouvez purée de mince. Ouais. Vous retrouvez les informations concernant tous les comics dont on a parlé sur le site de Radio Kawa. Vous n'hésitez pas à commenter, persévérez, descendez, faites la roulette vers le bas pour trouver la page des commentaires. On les lit tous et on se donne rendez-vous donc.
Il y a pas de commentaires sur la page.
Très bientôt. On vous fait tous des bisous, lisez des comics. Bye bye.
Salut.
Ciao.
Oh,
bouya.
Alors on chante là.
Tu vois sa tête, il est là, il surveille. Il y a des femmes autour de lui, ça l'empêche pas de casser la bouche de tous les méchants toute la journée, la nuit. Oui.
Comics
Outcast 2016.